Twitter, n'est-ce pas Pierre ? Pour la balade des gens heureux, il faut faire appel au Twitter.
Ça marche ou pas ?
Oui, ça marche.
Trois secondes, oui.
Trois secondes, top.
Ça y est, c'est fini.
Voilà, moi, c'est fini. Moi, j'avais une réunion au siège, support de réception pour les visites inspirantes. Non, c'est vraiment un hasard incroyable.
Donc, on vous propose tout à l'heure, à partir d'un abécédaire de la créativité qui avait été constituée dans le réseau Créativité et Territoire les deux ou trois dernières années, on vous propose six étapes. Rêver, tolérance, expérimentation, Oulipo, esthétique contemporaine, et il en manque une, mais voilà. Innover, voilà, innover. Et donc, autour de ces six entrées, on vous propose de faire un petit parcours qui partirait de l'espace Mendès France, qui va descendre et qui va tourner un peu autour du Clin et remonter. Voilà, on vous propose six étapes. Ça fait à peu près deux heures. Et à chacune des étapes, il y aura une petite animation en lien avec le thème. Et ce qu'on vous propose, c'est à la fois de découvrir un peu Poitiers, de découvrir le Clin. On espère qu'il n'y aura pas encore trop de pluie. Et ce qu'on espère aussi, c'est que pendant ces deux heures à peu près, on va essayer d'être un petit peu plus serré. On va essayer de vous permettre comme ça d'avoir une expérience un peu diversifiée sur la créativité.
Merci Pierre. Alors en même temps, je signale la présence au paperboard de Angel Angie, qui est designer graphique digital, donc qui va retraduire un peu ce que vous allez débattre, madame et messieurs, par le dessin. Voilà. Tout au long de la journée, alors là, elle intervient devant nous, mais tout au long de la journée, elle a son carnet, elle prend des notes. Enfin, si j'ose dire, et plutôt des dessins. Donc je remercie Bernard Manceau, qui est directeur de la délégation régionale Poitou-Charentes, CNFPT, parce que c'est un peu un habitué maintenant, depuis 2-3 ans. Et on a toujours un peu cette volonté d'essayer de poser la question de la créativité, finalement, dans les territoires, à partir d'un triptyque, les entreprises, on en aura demain matin, entre autres, les territoriaux, qu'ils soient élus ou techniciens, et puis la société civile, mais on verra ça tout à l'heure avec Antoine Héron sur... Cette thématique de la créativité citoyenne. Donc Bernard, je te laisse la parole et je te laisse animer cette table ronde.
Merci Jackie. Deux mots pour me présenter. Donc j'appartiens à un établissement public de formation qu'est le CNFPT. Si vous souhaitez des renseignements sur cet établissement public, vous allez sur le site internet du CNFPT, vous aurez toutes les informations. Donc comme ceci, je fais l'économie de la présentation. Notre vocation est de former l'ensemble des agents territoriaux à leur métier ou à des formations statutaires. Et depuis déjà un certain nombre d'années, le projet de formation de l'établissement est de s'aventurer sur l'innovation publique locale. Et vous voyez, je suis maintenant parmi vous là aujourd'hui, mais mes collègues sont réunis au laboratoire de créativité aux services centraux, où ils ont des visites inspirantes. Donc c'est exactement le pont de ce que vous allez avoir après. Eux, ils appellent ça des visites inspirantes, mais c'est exactement la même philosophie. C'est d'apprendre à se décaler et à décaler ses regards, à décaler ses modes de pensée pour produire collectivement des plus-values sur l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc là, la table ronde et les présentations qui vont être présentées, donc j'aurai le plaisir de vous présenter Marie-Pierre Février-Demont, qui est formatrice, donc aura l'occasion, elle, de se présenter, qui, hasard de l'actualité, était dans les locaux de la délégation la semaine dernière pour justement animer une formation sur, entre guillemets, la créativité, mais on pourra s'en expliquer tout à l'heure. Et puis Stéphane Cheduto, qui est directeur général des services d'une structure intercommunale et qui a eu la lourde responsabilité en tant que fonctionnaire de construire avec les élus, et c'est cela qui va nous expliquer comment amener des points de vue différents autour d'un projet de territoire et comment faire vivre ce projet de territoire. Et je crois qu'à l'échelle de la nouvelle carte des intercommunalités, c'est une expérience qui mérite vraiment d'être travaillée et d'être débattue et d'être aussi, sur certains points, d'être observée avec beaucoup, beaucoup d'attention, puisque l'innovation n'est pas seulement, et je reprends les mots d'hier, de ce matin plus tôt, l'innovation n'est pas simplement l'apanage des grandes collectivités, des métropoles, hein, puisque, pour reprendre l'aphorisme de tout à l'heure, il y a des modes, effectivement. Dans les territoires dits ruraux, l'innovation peut très bien s'enclencher, mais à partir d'une certaine exigence méthodologique, d'une certaine exigence éthique et d'une certaine exigence sur, justement, la convergence des regards. Donc, c'est un peu ces éléments-là qu'on va essayer de vous présenter. Donc d'abord, la parole à Madame Marie-Pierre Feuvier-Demont pour qu'elle nous explique un peu son travail et les enjeux que ça recouvre.
Voilà. Donc bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, moi je suis, donc ça fait à peu près 5 ans maintenant que j'interviens, donc je suis formatrice consultante à mon compte, mais j'interviens beaucoup pour les collectivités territoriales, soit par le biais de leurs centres de formation, les CNFPT au niveau local, les INSET au niveau national, mais j'interviens aussi dans les collectivités sous forme d'accompagnement, de formation action, sur un petit peu les thématiques liées à la créativité, l'innovation ou au bonheur au travail, puisque accessoirement, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé une thèse sur le bonheur, d'où le PhD que vous voyez, c'est une thèse nord-américaine. Alors, mais avant tout, je suis pas, même si j'ai fait de la recherche pour prendre un petit peu de recul, moi je suis avant tout une personnalité créatrice. Et j'ai toujours la créativité, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. D'abord, j'ai toujours mis en place des nouveaux projets, déjà, par exemple, et que que je sois salariée, que je sois directrice, que je sois chercheur ou que je sois entrepreneur, finalement. À chaque fois, c'était plus fort que moi, il fallait que je mette en place des choses. Mais ce n'est pas que c'est plus fort que moi, c'est que ça répond, en général, très concrètement, à des besoins de territoire. Donc il n'y a pas de secret, sauf qu'il faut pas pouvoir transformer. En fait, toute la créativité va être aussi l'art de transformer les idées en actions concrètes. Donc là, c'est vrai que je vais parler un petit peu plus donc des services publics, puisque je côtoie les collectivités territoriales depuis quelques années, et aussi bien donc dans les formations que j'anime avec eux, qui s'appellent ça peut s'appeler créativité, technique de créativité pour innover, atelier d'innovation, innovation managériale, il y a différents intitulés. À chaque fois, je travaille en fait sur leur situation concrète, c'est-à-dire que je leur apporte des choses, mais je leur permets de voir très concrètement qu'est-ce que ça fait par rapport à leur problématique professionnelle de tous les jours. Donc, autrement dit, l'idée, c'est qu'ils s'emparent très rapidement du développement de leur créativité ou de techniques de créativité pour pouvoir les utiliser à des fins professionnelles. Alors, je me suis effectivement aperçue que, créativité, innovation, la créativité, c'était plutôt un oxymore au départ. Quand j'ai commencé en 2012 à faire les formations, à faire des formations sur ce sujet. En gros, il y avait 12 places et il y avait 12 personnes. Maintenant, quelques années plus tard, j'en donne un petit peu dans toute la France. Et si on prend dans les INSET, qui sont les centres de formation pour les cadres A des collectivités, je donne 2-3 formations à Angers et 2-3 à Montpellier. À chaque fois, c'est 80 demandes pour 12-15 places. Parce que tout à coup, il y a un engouement, mais il y a un besoin, évidemment. C'est ce que je vais vous montrer. Puisque jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Moi, donc les personnes, quand tout va bien, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Et les administrations territoriales, comme les administrations centrales, on met en place énormément, une structuration beaucoup axée sur les procédures. Et ce qui vous intéresse, vous, en tant que citoyen, c'est les services publics, la réactivité des services publics. Donc je vais me positionner un petit peu par rapport à ça. Mais aussi, pour que des services publics de qualité soient assurés, il faut qu'il y ait aussi l'organisation qui fonctionne bien avec. Et donc, jusqu'à présent, il y avait des budgets, tout fonctionnait bien, donc on ne se posait pas de questions. Sauf que maintenant, il y a tout un tas de problématiques qui arrivent, tout un tas d'enjeux. Je vais vous passer ce livre d'ailleurs, si vous voulez bien. J'ai écrit ce livre justement aussi bien pour diffuser un petit peu plus l'esprit de la créativité, les techniques, mais surtout un petit peu tous les retours d'expérience que toutes les personnes que j'ai pu former, accompagner, ont pu mettre en place justement dans les collectivités pour améliorer soit les services publics de manière directe, soit de manière indirecte, leur fonctionnement interne. Et pour moi, une entreprise, ça c'est le lien avec le sujet du bonheur. Quand on est heureux au travail, on travaille mieux, on est plus efficace. et ça contribue aussi à ça. Donc du coup, donc par rapport aux enjeux dont je vous disais, les nouveaux enjeux, eh bien il y en a beaucoup. Par certains endroits, c'est la qualité des services publics. Par d'autres endroits, c'est des nouveaux services publics à créer, des nouveaux publics à prendre en compte, des besoins de réactivité, par exemple, sur des services publics, des besoins de simplification administrative. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin, tout le monde sait ce que c'est. Des besoins de qualité de vie, que ce soit qualité de vie au travail pour les personnes qui travaillent dans les collectivités, que qualité de vie des habitants dans les communes. Et la créativité, elle arrive justement au secours quand on ne peut plus faire ce qu'on a toujours fait, quand on doit faire mieux avec moins, par exemple. La créativité vient à la rescousse. La créativité, c'est l'art aussi de trouver des solutions nouvelles à ce qu'on n'a pas encore par rapport aux réponses qui ne viennent pas immédiatement. Et quand on a en fait une culture de la norme, de la procédure, du conformisme. Moi, j'ai des agents qui me disent, on nous a dit qu'on était de bons agents territoriaux si on obéissait bien. Voilà. Pourquoi on fait comme ça? On l'a toujours fait, c'est comme ça, faut pas. Donc, cette culture du conformisme qui a marché à un moment, qui amène de l'ordre, c'est hérité du taylorisme et compagnie, je ne veux pas refaire un historique, mais sauf que il marche quand on a abondance de ressources, quand on a abondance de moyens, quand tout va bien, en gros. Sauf que maintenant, ça ne marche plus, aussi bien par rapport aux moyens que nous n'avons plus et par rapport aux nouveaux besoins, dont certains, je vous ai mis quelques exemples là. Et effectivement, une personne créative, c'est l'objet du petit dessin en dessous, c'est quelqu'un qui, par définition, peut déranger puisqu'elle cherche à faire un petit peu autrement. Elle ne se contente pas de ce qu'on lui dit. Vous ne pouvez pas dire à un créatif, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Le créatif, il va chercher chaque obstacle pour le créatif, chaque obstacle de la vie, est un défi qui va quand il va surmonter ces défis, il va trouver des solutions nouvelles. Et moi, j'ai pu me rendre compte dans mon parcours, parce que je vous ai dit que je suis créative et j'ai toujours mis en place des nouvelles choses. Il y a des moments, j'ai été louée par rapport à cette manière de faire. Puis dans d'autres endroits, c'est le contraire. J'étais la femme à abattre parce que je ne me conformais pas. Maintenant, je suis payée pour former la créativité, donc ça va très bien. Donc c'est un petit peu ça. Donc il y a cette tension en fait qui était aussi à lever un petit peu dans les collectivités par rapport à ça. Si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, je continuerai à obtenir ce que j'ai toujours obtenu. Donc ça va bien si je veux continuer à avoir ce que j'ai toujours obtenu, mais si je veux autre chose, il faut changer quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, ce que j'explique moi à travers mes formations, c'est que la créativité, c'est un état d'esprit au départ, c'est que ce n'est pas le cerveau qui a créé les problèmes, la partie du cerveau qui a créé les problèmes qui va résoudre les problèmes. On est on a besoin de notre cerveau rationnel pour définir les problèmes, mais sauf que l'esprit, la partie du cerveau qui va trouver les idées, c'est ce qu'on appelait, c'est un peu caricaturé, cerveau droit, cerveau gauche, mais c'est juste une image, c'est une autre partie du cerveau. Et cette partie du cerveau, elle a besoin d'être stimulée par justement tout un tas de choses, par du beau, par du positif, par de l'émotion. Et surtout pas par de la peur, par du stress, et c'est complètement antiproductif. Donc en fait, ce que j'enseigne un petit peu, ce que je cultive, je l'enseigne pas, je l'enseigne concrètement, ce que je fais vivre aux personnes les situations, c'est qu'on devient plus efficace quand on est dans le plaisir, quand on est dans les ambiances positives, quand on va jouer au travail. Nouvelle petite parenthèse, une des théories phares qui explique le lien entre bonheur et performance au travail est la même conceptualisation qui en fait explique comment l'enfant apprend naturellement par le jeu, par exemple. Ça fait appel au même mécanisme. Donc il y a tout un tas de choses qu'on a en fait oubliées, mis de côté, mais qui vont servir l'efficacité professionnelle. Donc j'explique à chaque fois, l'idée c'est vraiment de développer un petit peu cet esprit de créativité, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin justement, c'est le contraire un peu de la résistance au changement, hein, là où on se plaint d'avoir de la résistance au changement dans les organisations, ben l'inverse c'est la créativité. La résistance au changement, on se plie de manche, chaque fois qu'on a un obstacle, qu'on a, ben, on se heurte dedans. La créativité, ben, on va se dire, ok, comment je pourrais faire maintenant que j'ai cet obstacle, cette contrainte, pour aller continuer à atteindre mon objectif, voilà, malgré cet obstacle. Donc c'est vraiment, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Olivier, hein, Olivier Bouba Olga, juste en fin de matinée, hein, on a un petit peu parlé, hein, en disant voilà, on va chercher comment faire, hein, c'est ce qu'on va un petit peu chercher avec la créativité. Donc la créativité dans ce sens, ça peut aussi être un processus, hein, où on va effectivement partager une problématique, définir un défi créatif ensemble par exemple, pour trouver des idées, hein, et sélectionner les bonnes idées à mettre en œuvre. Donc ça se fait naturellement par parfois une personne créative, une personne qui a une idée et qui tout à coup, eh ben, va réussir à faire, emmener tout un groupe, quel qu'il soit, autour de cette idée-là, et va la faire vivre. Mais quand on ne l'a pas, eh ben, on va utiliser l'intelligence collective pour trouver ce qui est le mieux adapté. Et là, je vais encore rejoindre donc, Olivier de ce matin, qui disait, hein, qui disait en fait... pour reprendre ce qu'il a dit ce matin, on ne peut pas reproduire des modèles, mais voilà, les problématiques sont différentes. Chaque territoire a une problématique différente. Donc effectivement, quelque chose qui a marché ici, ben, on ne peut pas faire du benchmark direct. Ce n'est pas parce que ça a marché là qu'il faut le reproduire là. En fait, il y a un processus de transformation qui est le processus de créativité qui doit être simplement s'en inspirer. Donc effectivement, quand vous disiez là qu'ils sont allés voir des territoires ou des expériences inspirantes, ça doit rester inspirante, non pas pour les reproduire, mais pour se dire, ben maintenant qu'on a vu ce qu'ils ont fait à cet endroit-là, comment nous, avec les problématiques qu'on a, avec le territoire qu'on a, comment nous on pourrait en faire quelque chose. Et c'est comme ça que dans les techniques de créativité, et ben parfois on va s'inspirer de choses mais qui n'ont rien à voir avec notre sujet. Et plus on s'inspire de choses qui n'ont rien à voir avec notre sujet, plus notre cerveau va être capable de créer des liens et justement de trouver les nouvelles réponses à la problématique et de trouver des choses à mettre en œuvre. Donc pour ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi, c'est indispensable à mettre en place donc dans la fonction publique territoriale. Et j'ai beaucoup de retours d'expérience de personnes qui mettent un petit peu en place ça. Je vais être aussi d'accord avec ce qu'avait dit Didier Moreau en introduction ce matin, où il a dit qu'il était contre les services innovation qui se créaient dans les collectivités. C'est vrai que moi j'en vois apparaître dans certaines de mes formations où voilà, le nouveau chef de projet innovation et en gros c'est, on va créer une petite cellule innovation dans une collectivité. Alors ça peut avoir une certaine utilité, ça peut quand même servir de terreau. Mais le problème, c'est que si cette culture de la créativité n'imprègne pas tout l'ensemble, eh bien, ça va pas faire bouger, en fait, ça va pas faire bouger un petit peu l'ensemble. Tout le monde doit être touché par ça. Pour ceux qui ont vu le documentaire sur Arte, Le bonheur au travail, alors qui n'est qu'un aspect, hein, du bonheur au travail, pour moi, un petit aspect qui est sur l'entreprise libérée. Par contre, ce que dit bien Isaac Jex, c'est qu'il y a 4 étapes pour libérer une organisation, quelle qu'elle soit. Et la première des étapes, c'est la libération de l'intelligence par la créativité. Voilà. C'est au moins la première étape qui va nous permettre, effectivement, c'est ce que j'ai mis un petit peu, d'arriver à des modes de gouvernance différentes, c'est-à-dire d'utiliser véritablement l'intelligence collective, parce que c'est pas en haut, c'est pas une seule personne qui a l'idée, la science infuse, et souvent c'est ce qui est appliqué. C'est, eh bien, si c'est en interne, c'est les agents, si c'est les services pour publics, pour les habitants, ben c'est les habitants, si on va travailler avec les entreprises, c'est aussi les entreprises. C'est qu'on va utiliser tout un ensemble, en fait on va brasser, on a besoin d'énormément d'idées, on a besoin de brasser un ensemble d'idées pour pouvoir en fait trouver ensemble la meilleure idée qui va pouvoir être appliquée et qui va être la réponse à ce territoire-ci et pas finalement cet autre territoire. Et du coup, ben, qui va effectivement demander en interne des modes de management plus participatifs, hein, et voilà, et un petit peu plus d'agilité dans les collectivités plutôt que Voilà, plutôt que... De toute façon, voilà. Alors, je ne vais pas donner des exemples, hein, puisqu'on va avoir un exemple concret après. J'aurais pu vous donner des petits exemples, mais le temps passe. Donc, comme on va avoir un exemple développé d'une civilisation un petit peu différente, justement, de la gouvernance, eh bien, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup. On peut applaudir. Effectivement, maintenant, donc ça pourra nourrir l'échange de tout à l'heure. Donc, on va passer. Je vous propose de passer donc dans la démarche de la communauté de communes qui va vous être présentée. Donc, au Val de Sèvre, pour ceux qui ne sont pas de Poitou-Charentes, c'est à côté, c'est-à-dire c'est dans le département des Deux-Sèvres. Et donc, on reste là dans une configuration avec les collègues de la Vienne, tout à fait intéressante.
Bonjour Stéphane. À toutes et à tous. Donc effectivement, me revient la tâche de vous présenter un aspect pratique. Alors effectivement, j'ose espérer que nous faisons preuve de créativité dans nos métiers. Et dans les collectivités, il y a une diversité de pratiques. Et effectivement, nous, l'objectif, effectivement, c'est de s'approcher des bonnes pratiques. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, vous présenter tout d'abord l'élaboration du projet territoire, mais avant, je souhaitais vous présenter un petit peu les ressorts du territoire, hein, sa localisation, et puis forces et faiblesses. Donc, sur ce territoire, comme beaucoup d'intercommunalités en France, nous avons été confrontés à des processus de fusion, contraintes ou négociées, plus souvent contraintes que négociées, il faut être clair là-dessus, et nous, on était dans ce cadre-là. Avant 2014, existait sur ce territoire niché entre Niort et Poitiers. On est sur l'axe de la RD 611, ancienne nationale, qui relie Poitiers à La Rochelle. Donc, nous avions trois communes qui coexistaient. La plus grosse faisait 20 000 habitants, la deuxième faisait un peu plus de 10 000 habitants et la dernière faisait 5 000 habitants pour un total commune de 22 communes. Ça, c'était avant et pour effectivement fédérer ces trois intercommunalités, avait été créée une structure pays qui chapeautait l'ensemble de ces trois intercos. En 2014, effectivement, processus de fusion lié à la loi sur la réforme des collectivités territoriales, 2010, la loi RCT, et donc processus de fusion qui s'est déroulé et qui a abouti donc à un périmètre différent de celui que l'on avait avant 2014, puisque de 22 communes, nous sommes passés à 19 communes. C'est-à-dire qu'il y a trois communes qui ont décroché pour se porter sur notre territoire, à savoir le Mélois. Donc 19 communes, 48 conseils communautaires au sein du conseil communautaire pour une population de 31 000 habitants. Plus de 11 000 emplois, donc on a un tissu économique extrêmement important sur ce territoire, hein. Vous voyez, c'est une proportion d'un tiers par rapport au nombre d'habitants, avec près de 2 000 entreprises. Donc on est sur un territoire rural, périurbain, on est aux portes de Niort, et donc par le fait, et notamment avec les autoroutes A10 à 83, on a la chance effectivement d'avoir un échangeur autoroutier qui est très connu, à savoir la crèche, hein, avec une zone d'activité de près de 500 hectares, et à l'autre bout, une autre sortie d'autoroute sur la commune de Soudan, qui a une moindre intensité. Voilà, donc un territoire qui avait la particularité effectivement d'être compact. On parle aujourd'hui beaucoup de communes XXL fusionnées avec 100, 110, 120, 130 communes. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. C'est une fusion qui a été pratiquée sur une petite échelle, 19 communes, et ce qui explique, et vous allez voir par la suite, un fonctionnement qui est un peu, pas atypique, mais normalisé par rapport à d'autres fusions. Alors, je ne sais pas si des élus de la Vienne sont présents dans la salle, mais les fusions d'Interco dans la Vienne qui se sont déroulées au 1er janvier 2017 sont sur une autre taille pour un certain nombre et les difficultés sont tout autres. Bien. Pardon ? Oui, notamment. Donc, voilà un petit peu pour ce territoire, un territoire compact. Pour autant, donc, à la fusion, je suis devenu directeur général des services en janvier 2014, sachant que précédemment, j'étais DG de la plus grosse interco des trois fusionnées. Donc, connaissant bien le territoire, on m'a effectivement confié cette mission d'assurer la direction de cette nouvelle structure intercommunale. Dès le départ, il y a eu deux installations. Janvier 2014, on était sur la fin du mandat, et avril 2014, on était sur le début du mandat. Très rapidement, à l'intérieur de cette intercommunalité compacte, des dissensions politiques se sont fait jour, notamment mues par les existants précédents. Chaque intercommunalité, chaque élu provenant de son intercommunalité avait son passé, et le passé des élus de l'interco A n'était pas le passé des intercos de l'élu B. Donc une confrontation, quelques joutes, hein, bon, ça c'est resté très correct, mais on a très vu la déliaison entre un fonctionnement qu'il fallait installer rapidement, même si on l'avait travaillé préalablement, dans les services, et puis des dissensions au niveau des élus. Donc il fallait rapidement arrêter une feuille de route, et c'est en cela que nous sommes partis très rapidement sur l'élaboration d'un projet de territoire, à savoir partir de divergences pour une convergence négociée. Donc très rapidement a été mise en place cette stratégie d'arrêter pour le mandat un projet de territoire, de telle manière à partir d'un diagnostic territorial, arrêter un certain nombre d'axes prioritaires pour pouvoir travailler ensemble sur l'ensemble du mandat. Donc le résultat, ça a été, et c'est aujourd'hui, une stratégie partagée pour le territoire, à savoir, et c'est ce que l'on va voir, un territoire ouvert et pratique vers un territoire structuré et cohérent. Et effectivement, nous sommes pris à l'heure actuelle entre, d'une part, une agglomération à Niort et, de l'autre côté, l'agglomération de Poitiers. Donc, on est vraiment à la charnière de deux blocs très importants qui sont dans une strate démographique plus importante que la nôtre. Et la stratégie des élus, effectivement, c'est de vivre sur ce territoire et de le structurer de telle manière à ce que, à côté de ces deux géants, enfin, j'ose le terme, on puisse effectivement assurer un développement économique, des services à la population, et qu'on n'ait pas de fuite, le moins de fuite possible, sur les territoires périphériques. C'est tout l'enjeu qui a été celui de constituer ce projet politique. Donc, quelque chose qui est très pratico-pratique, hein, comme le disait madame, on a été dans le sens de la créativité, mais en étant pragmatique, et faire en sorte que les actions et les stratégies trouvent écho auprès des populations, auprès des élus, que les élus puissent porter ce projet politique de telle manière à ce qu'on ne soit pas simplement dans de la théorie, qu'on soit vraiment sur des aspects concrets et qu'on puisse les évaluer en conséquence. Donc une feuille de route pour un mandat, donc jusqu'en 2020, avec effectivement 22 actions retenues. Un point important concernant l'élaboration de ce projet de territoire, nous avions, quand on a lancé ce projet, deux possibilités, soit de le mener en interne, soit de le mener en externe. À considérer effectivement les tensions qui se faisaient jour entre les élus des différentes intercos précédentes, le choix a été fait de dire on externalise cette mission de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'approche partiale ou qu'on nous reproche effectivement une orientation très spécifique. Alors effectivement, si on l'avait fait en interne, ben, le DG aurait mis les mains dans ce dossier, et donc ça aurait certainement altéré l'acceptation d'un projet de territoire dans sa finalité. Donc la question a été vite tranchée. Nous sommes partis avec un marché, on a fait une consultation, et c'est KPMG effectivement qui a été retenu pour lancer cette opération importante, puisque en termes de délai, c'est 12 mois de travail. Alors 12 mois, c'est beaucoup et c'est très peu. Il faut savoir que ça a été lancé en fin 2014, et ça s'est déroulé sur toute l'année 2015, et ça s'est fait en parallèle de l'élaboration d'un schéma de mutualisation commune interco. Donc on a monté vraiment sur l'année 2015 un travail très intense sur mutualisation et projet de territoire. L'objectif, et c'est en cela que pour moi c'est un projet politique et non un projet technocratique ou technique, faire en sorte que les élus prennent toute leur place dans l'élaboration de leur territoire et de la manière dont ils voulaient le constituer, le renforcer. Donc, une mobilisation forte des acteurs locaux. Sur cette période de 12 mois, les réunions se sont enchaînées avec une fréquence très rapprochée. Il y avait un comité de pilotage qui avait été constitué où tous les maires étaient présents et généralement, toutes les 5 semaines, ils étaient en réunion sur des demi-journées complètes. Voilà. Donc, vraiment un travail pour faire en sorte que, un, on ne soit pas taxé d'action partisane par le recours à un expert extérieur qui connaissait par ailleurs, pour avoir mené d'autres études, ce territoire, mais aussi de faire travailler sur un rythme intense des élus qui, à un moment donné, sur ce début, étaient plutôt à être dans des postures et où il n'y avait pas forcément de liaison. Nous, notre travail, ça a été, dans ce projet de territoire, de les faire se rapprocher. Les premières réunions étaient plutôt tendues, hein. Enfin, je ne vous le cache pas. Pourquoi on est là? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Enfin, on était vraiment sur une réaction, un peu de réticence à se dire, bon, on nous réunit, mais tout est mâché d'avance, on va nous vendre un truc déjà écrit. Non, rien n'était écrit, bien au contraire. Même si le cabinet, effectivement, a été impulsé, initié, et rapidement, au cours des réunions, on a vu que la mayonnaise était en train de prendre et où véritablement les uns et les autres ont vraiment pris en considération l'analyse, le diagnostic d'un territoire pour avancer ensemble et de se dire « Ok, on vient d'espaces différents, maintenant il n'y en a plus qu'un ». La première année, clairement, chacun faisait référence, et la langue fourchait souvent, à leurs anciennes interco. Les noms de leurs interco fusaient dans les réunions. On se dit non, c'est pas celle-ci, c'est la nouvelle, comment s'appelle-t-elle? Voilà, on était un peu là-dedans. Donc il y a eu vraiment un gros travail de fait avec les élus. Sur le déroulé, donc la construction du projet de territoire, plusieurs étapes, trois étapes en fait, ça a été la mobilisation et l'analyse territoriale, donc vraiment connaître, avoir une connaissance partagée de ce territoire, présentant les forces et les faiblesses de ce territoire. Donc une association au niveau des élus, on les a effectivement beaucoup fait travailler, comme je vous le disais, mais c'est aussi les partenaires institutionnels, les acteurs locaux. Le conseil de développement qui existait du temps du pays a été maintenu et on a fait travailler le conseil de développement sur ce projet de territoire. Quelle était leur analyse? Voilà, donc ça c'était intéressant. On a sollicité les élus. Alors quand je dis les élus, ça n'est pas uniquement que les élus communautaires. On a aussi fait des séminaires avec l'ensemble des conseils municipaux. On a convié l'ensemble des conseils municipaux avec une participation quand même correcte. C'est près de 350 élus municipaux sur cette communauté de communes. On a réuni plus du tiers sur une première réunion. Donc c'était plutôt intéressant. Et on a vraiment senti un intérêt à conforter ce travail sur projet territoire et à y concourir. C'était plutôt intéressant à ce niveau-là. On sentait, parce que souvent, si vous voulez, le bloc, on parle du bloc commune-communauté, mais derrière la notion de bloc, il faut aussi entendre les liens qui peuvent se distendre entre, d'un côté, certaines communes et de l'autre, la collectivité commune. Il y a parfois des rapports de force, on ne peut pas les nier, mais là, on a vraiment travaillé sur une osmose fine et de faire en sorte que le projet territoire il s'adresse à la fois aux élus communautaires et aux élus municipaux. Donc, solliciter aussi les acteurs locaux pour partager les perspectives d'évolution de l'EPCI et leur incidence sur les projets territoriaux. Donc, un gros travail à ce niveau-là, c'était l'étape numéro 1. Sur l'étape numéro 2, ça a été de définir les objectifs et axes stratégiques. Donc là aussi, diagnostic posé, un territoire périurbain, rural, un ouest très, très développement économique, un est plutôt rural, mais avec des correspondances, notamment en termes de développement économique, puisqu'on a beaucoup d'industries, production agricole, transformation, lait, viande, et une logistique forte. Donc il y a un lien entre l'est et l'ouest, l'est produit, l'ouest stock, et assure les flux. Donc là, effectivement, il y avait du lien. Et puis, n'oublions pas la centralité avec la ville, le centre, à savoir Saint-Mexant-l'École, une cité militaire avant tout, avec la présence de l'ENSOA, et avec la volonté de renforcer le rôle, la centralité de Saint-Mexan, c'est-à-dire arrimer la COVID commune et lui donner un centre, lui donner un barycentre. Alors effectivement, en tant que taille de population, on est sur cette logique de barycentre. Pour autant, il diagnostique la pesée, l'a identifié, à savoir un manque de services à la population sur ce territoire. Et c'est là-dessus que l'on a travaillé, assurer une cohérence. La chance est d'avoir un territoire compact, mais ce n'est pas parce qu'on a un territoire compact que tout est résolu. Bien au contraire, ça crée des demandes. Il faut poser une offre. Et c'est en cela qu'effectivement, le projet de territoire a été une véritable avancée. C'est qu'on a assuré cette cohérence et de faire en sorte que chacun, effectivement, il n'était pas question de créer des salles dans toutes les communes, mais de dire à un moment donné, on a un destin partagé. Et parce qu'on a un destin partagé, il faut poser les équipements, les investissements nécessaires à la vie de tous sur ce territoire. Donc, faire émerger des lignes de force de la stratégie. Comment souhaite-t-on faire évoluer le territoire? Donc, effectivement, fort développement démographique, on est effectivement entre Poitiers et Niort. On a des capacités, une offre foncière très importante sur ce territoire, notamment sur du neuf. Donc, on a... par le développement économique et par les réserves foncières en habitat et en activité, des flux importants sur notre territoire. Quelle vision politique, quelle valeur souhaite-t-on promouvoir? Là aussi, gros travail. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Ça a été fondamental. Recueillir les propositions des élus, des techniciens du conseil de développement. Donc là aussi, sur les acteurs, on a fait travailler les personnes ressources dans nos collectivités, à savoir les chefs de service de l'Interco. On a aussi fait travailler les secrétaires de mairie, vraiment les gens qui sont dans la pratique au quotidien sur leur thématique, les manques, les plus, ce sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut performer. Voilà, on a vraiment été sur à auditer un maximum de personnes. Et donc, à l'issue de cette étape, c'était co-construire des scénarios de développement possibles. Donc, sur les scénarios de développement possibles, on avait 3 scénarios. 2 qui étaient plutôt à dire, nous sommes territoire périurbain et allons chercher notre développement en périphérie. Et le 3e scénario, c'était de dire, créons une centralité, créons un secteur, certes, il est polarisé, mais faisons en sorte que ce territoire soit dans une certaine forme d'autonomie. Pas totale, hein, il ne s'agit pas de créer des frontières de l'intercommunalité, mais les élus l'avaient identifié dans le séminaire comme un territoire polarisé, périurbanisé et donc vivant sur ses franges. Ça, c'était la photographie, l'instant T, comment les élus voyaient leur territoire. Après, la question leur a été posée de dire, que voulez-vous faire de ce territoire? Et donc, du premier scénario, les élus sont allés au 3e scénario, créer une centralité, créer une forme d'autonomie. Voilà. Donc, on partait d'un existant, on aurait pu rester là-dessus, de dire, nous, ça nous va très bien, il n'y a pas de difficulté, continuons, on a une poche de développement, on vit avec la périphérie, très bien. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Voilà. Et majoritairement, ça a été exprimé par les élus. Donc, une fois qu'on a arrêté effectivement le scénario de développement du territoire, il s'agissait effectivement de travailler sur les axes de développement. Donc, c'est la déclinaison d'un plan d'action. Un plan d'action, là encore, hein, du pratique, c'est d'identifier nos capacités financières et parce qu'on avait des marges de manœuvre financière, de caler un plan d'action, notamment en investissement et aussi en fonctionnement. Voilà. Qu'on ne parte pas sur... et c'est là où... l'appui d'un cabinet extérieur a été extrêmement pertinent parce qu'on est parti dès le départ sur des idées multiples et qu'à un moment donné, on a posé un contexte financier de dire tout n'est pas possible. Et parce que tout n'est pas possible, vous devez prioriser. La boîte fait cette taille-là, elle ne fait pas celle-ci, donc il faut que ça tienne dans la boîte. Donc là aussi, ça a beaucoup discuté et donc ce plan d'action... C'est pour ça que je le dis concret et réaliste, parce qu'aujourd'hui, il se décline au fil du temps. Ça a été donc cette prospective financière de 5 ans dont je parlais, et ça a été aussi de le présenter, de le restituer, à la fois au Conseil communautaire, mais aussi sur le Conseil de développement. Donc, un projet ambitieux, vous avez le déroulé pratique en matière d'action retenue. Donc, nos trois axes, le premier, le numéro un, c'était assurer le développement économique du territoire. L'axe du numéro 2, c'est renforcer un socle commun de services à la population sur l'ensemble du territoire. Et 3, là, c'était un axe sur la communication et sur la perception en interne, mais aussi en externe, promouvoir le territoire sur son identité. Donc, on part d'une feuille blanche, 2014, création d'une interco. Et 2, donc sur cet axe, comment je fais pour en assurer la promotion sur le territoire, mais aussi en extérieur, à destination des habitants, de nos concitoyens, mais aussi des entreprises. Donc ça c'est un gros travail qui là encore se déroule. Donc développement économique, vraiment, c'est l'axe fort. C'est, vous voyez, un nombre d'actions qui ont été identifiées et des investissements qui, là encore, sont mesurés. Là où effectivement l'investissement est le plus fort, c'est sur le deuxième axe, c'est renforcer des services à la population. Donc pour vous citer les axes forts pour le territoire, c'est trois axes. C'est la jeunesse avec la construction d'un accueil de loisirs qui est en cours actuellement sur Saint-Mexant. Donc on est vraiment à se dire, on va centraliser une offre de services qualitative. Donc on est parti sur un investissement de plus de 2 millions d'euros. Le deuxième axe, c'est la constitution d'une maison des services au public. Alors ça le vend en poupe en ce moment, hein. L'État, effectivement, sur la labellisation insiste énormément. Mais au contraire d'un certain nombre de MSAP qui sont la transformation des bureaux de poste en zone rurale, et pour ne pas les fermer, on crée une MSAP. Nous, c'est vraiment une MSAP collectivité, c'est-à-dire c'est porté par l'Interco et ça sera animé par l'Interco. Donc dans cette MSAP, qui aussi correspond à un bâtiment qui était jusqu'à présent une friche militaire, c'est de travailler sur un plateau regroupant missions locales, notamment missions locales, SIAS, CAF. On va aussi faire un espace de coworking. Enfin, vraiment, office de tourisme, faire vraiment, quand on parle de MSAP, ce ne sont pas que des services sociaux. On est vraiment sur une offre pour un public extrêmement large. Diversité, c'est aussi une ambition. On parlait tout à l'heure de créativité, qu'il fallait être inventif et pas simplement dans une tête, mais dans beaucoup de têtes. Et on a travaillé là-dessus, de se dire, il faut créer un aimant. Et pour que l'aimant fonctionne presque 24 sur 24, 7 jours sur 7, il faut que dans la boîte, il y ait plein de services qui puissent s'intégrer et travailler peut-être sur des horaires différents. C'est coworking, c'est tourisme. Effectivement, mettre le tourisme à côté du SIAS, ben, quand vous avancez cette idée, ce n'est pas forcément compris dès le départ par les élus, hein, clairement. Enfin, je suis très clair là-dessus. Et le troisième équipement structurant pour le territoire, c'est la construction d'un centre aquatique. Est ouvert tout au long de l'année. On a des piscines d'été qui sont fatiguées et on est le dernier territoire intercommunal des Deux-Sèvres à ne pas être doté de cet équipement. Voilà ce que je pouvais dire. Et donc le dernier point, effectivement, l'image est très important. On parle beaucoup de concurrence territoriale, de compétition entre les territoires. À l'instar des entreprises, oui, nous sommes dans un champ concurrentiel. Enfin, ça n'est pas un gros mot que de le dire. Les territoires font tout ce qui est possible pour attirer de nouvelles énergies, habitants, entreprises. Et c'est le sens de ce projet de territoire, effectivement, de travailler vers cette convergence et de donner de la dynamique. On travaille beaucoup, nous, sur la dynamique territoriale. Voilà, ça, c'est notre maître mot dans tout ce que l'on fait, dynamique territoriale. Et c'est quelque chose qui est à l'image de ce que l'on fait au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire.
Bien, merci beaucoup, Stéphane. Alors, je pense qu'il nous reste un peu de temps pour faire appel à quelques questions. Puis après, je conclurai rapidement.
Oui, j'ai bien aimé la présentation de la démarche très structurée en quatre temps. Je pense qu'il manque un dernier temps, le cinquième temps, qui est celui de la joie d'Archimède. C'est que quand on fait preuve de créativité, à la fin, on débouche sur des solutions dont on est heureux. Et ce bonheur-là, ça fait partie du bonheur au travail, en première ligne. Et je pense que la joie d'Archimède était une joie individuelle. C'est Archimède qui avait gagné son défi. Dans les organisations, ce sont des joies collectives. C'est extrêmement important. Il y a joie et fierté du travail d'une organisation innovante. Je crois que c'est important parce que ça, présenté par une méthodologie rigoureuse, ça donne l'impression de quelque chose de relativement laborieux et à partir de problèmes sur lesquels on doit relever des défis, etc. Derrière, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui est l'explosion de la joie.
Bonjour, Didier Gallet, je suis un ancien maire rural et puis j'ai créé un Living Lab en région Île-de-France qui essaye de travailler justement sur la créativité en faisant que notamment les élus puissent travailler avec d'autres ressources, dont les ressources territoriales. Et justement dans votre présentation, et ça me fait rebondir un peu sur ce qu'est en train de faire Angels, il y a entre créativité et service public qui est un point d'interrogation. Et dans votre présentation, je n'ai pas entendu parler des usagers qui sont les ressources du territoire. Je vous ai entendu parler de KPMG, qui pour moi c'est l'anti-créativité par excellence. Et donc j'ai vraiment des interrogations sur la capacité aujourd'hui, effectivement. Alors je ne dirais pas des élus, parce que c'est compliqué de généraliser. Et la France est riche d'initiatives d'élus qui sont très, très innovantes. Mais c'est difficile d'imaginer la créativité dans un fonctionnement à trois bandes, finalement, entre d'une part des élus, effectivement, qui sont un peu des chefs d'orchestre en général, en tout cas. Les services qui vont exécuter la partition que ces chefs d'orchestre vont proposer, et puis ceux qui vont écouter, et malheureusement, peut-être qu'ils écoutent trop, qu'ils ne participent pas assez. C'est la vraie interrogation aujourd'hui, c'est comment réinvestir, faire que les usagers, les habitants, se réinvestissent davantage dans le développement de la dynamique territoriale que vous évoquez.
Oui, alors si je peux répondre à cette question, effectivement, je ne l'ai peut-être pas suffisamment abordé. Pour nous, les usagers sont au cœur du dispositif. Il n'y a pas d'action publique s'il n'y a pas d'usagers. Alors, il y a une organisation, les élus, effectivement, sont en charge des collectivités. À côté, effectivement, la démocratie participative existe à travers le Conseil de développement. C'est un échantillon, on est bien d'accord, hein, de ces usagers. Mais pour nous, effectivement, au quotidien, et on est très attentif à cela, dans tous nos domaines d'activité qui sont extrêmement nombreux, hein, chez nous, au total, c'est près de 400 agents publics qui travaillent sur le territoire. C'est vraiment au centre du questionnement. C'est... moi, j'insiste dans le quotidien à faire en sorte qu'on prenne en considération les demandes de ces usagers et d'améliorer le service et de le performer en conséquence. Il y a une mutabilité, effectivement, des demandes, clairement, à nous adapter. Alors, après, concernant le retour de l'usager vers le service public, oui, là, je vous entends. On le sectorise. Il existe par le Conseil de développement. Après, un système d'agora me paraît difficile, clairement.
Mais si je peux rajouter... Je vais rajouter un petit complément. Moi, là, quand les personnes viennent dans mes formations pour répondre à votre question, elles comprennent que ce qu'elles faisaient en démocratie participative avant n'était pas la démocratie participative. Et elles passent justement d'un mode où on a écouté les usagers. Alors, je ne parle pas pour des pas pour des si gros projets où là, il y a des fusions, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Là. Je parle plutôt pour des petites améliorations de services publics ou des nouveaux services publics à petite échelle. Eh bien, là où effectivement les pratiques s'améliorent, c'est qu'on va faire de la co-construction avec les usagers, c'est-à-dire que les idées, on va faire des séances de créativité, on va vraiment aller, les idées des usagers, plus les idées des agents de tel service, plus de tel autre, plus d'autres personnes qui n'ont rien à voir, toutes ces idées brassées ensemble, c'est ça qui va faire émerger, en fait, la véritable créativité. Donc, voilà. Il y a des choses qui, effectivement, commencent à se développer, mais qui n'étaient pas une pratique très, très développée, moi, ce que j'ai pu constater. Voilà.
Donc, sans porter, bien sûr, de jugement sur votre question, moi, ce qui m'a vraiment qui me rassure dans l'expérience qui vous a été présentée, et c'est un peu aussi le choix du CNFPT, c'est de considérer que les agents territoriaux sont aussi des acteurs de l'innovation. Et que lorsque, dans une structure, on fait jouer, entre guillemets, les 400 agents pour qu'eux-mêmes participent au développement de leur territoire, c'est autant de personnes qui vont ensuite irriguer l'ensemble du territoire. Et ce qui est important, il y a bien d'autres exemples d'ailleurs sur les territoires de Pitot-Charentais. Je pourrais prendre Cognac, je pourrais prendre la CC4B à Barbezieux. Enfin, il y a plein d'exemples où effectivement les élus, et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué, les élus acceptent que les agents qu'ils encadrent ont aussi leur mot à dire. Il n'y a pas que les élus qui participent, il y a aussi les agents. Vous avez raison de dire en revanche que la partie des usagers, et c'est une partie qui doit toujours être jouée d'ailleurs, parce que par définition, l'usager ne se met pas toujours en position d'être acteur lui-même de son territoire, il se met en position, et ce qui est logique, d'obtenir le service ou la prestation qu'il est en droit d'attendre de par les impôts qu'il paye. D'où d'ailleurs la grande difficulté dans la réforme de la taxe d'habitation, puisque c'est le lien direct qu'a un citoyen avec son territoire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc simplement, je voulais simplement ajouter que du point de vue de la formation, et ça, c'est un véritable objectif de l'établissement, c'est d'accompagner l'innovation publique locale au-delà du mot. C'est effectivement d'instiller dans les formations ces démarches de décalage, d'apprendre à penser autrement, pour faire court. Et c'est vrai que ça s'appuie sur des réflexions théoriques. Hein. On pourrait faire aussi un séminaire du point de vue philosophique. Hein. Qu'est-ce que nous apprend, par exemple, la philosophie chinoise sur la décision par rapport à la philosophie occidentale? Et c'est bien ces modèles-là, d'ailleurs, s'appuient sur ces interstices que ces mouvements sont en train de créer. Mais plus prosaïquement, au-delà des formations qu'on instille, c'est aussi d'accompagner la structuration des intercommunalités et de nous mettre le projet RH au cœur des projets de territoire. C'est notre mission, c'est de développer la formation. Et ce qui veut dire la formation, ça veut dire que les agents sont acteurs de leur propre, avec les employeurs évidemment, sont acteurs de ce territoire. Et c'est vrai que là, c'est un enjeu dans les 5-10 ans à venir pour l'évolution du service public. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la question est posée.
Ok, c'est une belle conclusion, Bernard. Donc, peut-être avant de passer à la table ronde suivante, Angèle vient de travailler. Donc, peut-être d'abord se présenter, parce qu'on ne l'a pas entendu trop beaucoup, et puis présenter ce qu'elle a fait là.
Attention, c'est l'évaluation.
Donc, moi, je m'appelle Angèle, et en fait, j'ai une formation à l'origine de design graphique. Plutôt dans le digital, donc je faisais des sites internet, enfin j'en fais toujours en fait des applications et j'aime beaucoup faire les conférences sur plein de sujets très très variés et en fait je m'amusais surtout à prendre des notes sous forme graphique et j'ai appris qu'en fait c'était un métier qui s'appelle de la facilitation graphique, donc aujourd'hui je propose mes compétences moi j'appelle ça de la traduction visuelle parce que je pense que c'est un terme qui résume un peu tout ce que je fais toutes les méthodes agiles, le design thinking, le brainstorming, enfin tous ces mots qui viennent un peu à la mode, c'est des choses qui me passionnent. Donc quelques commentaires, je ne sais pas trop s'il y a des questions à ce niveau-là. Enfin...
Oui, non, mais ça se regarde après. Ça se regarde. La facilitation graphique, ça se regarde, ça ne se commande pas après.
Ouais, voilà. Je prends en marche ce que les gens racontent et je les pose sur papier. Enfin, voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire plus.
Ouais. Si elle commente, elle va redéconstruire notre...
Par contre, ce que je peux vous signaler, c'est qu'elle a un carnet où elle prend toutes les... Voilà. Donc on essaiera de voir ce qu'on peut faire comme publication à partir de ça. Voilà. En tout cas, merci à vous trois. Et vous, on vous retrouve, Marie-Pierre, demain, dans un autre registre, mais complémentaire.
Voilà, exactement.
Voilà. Donc on passe au cinéma et territoire, parce que c'est une question qui nous intéresse aussi. C'est comment on pourrait peut-être... récupérer des films, faire des films, je ne sais pas, sur ce thème de créativité dans les territoires. Donc j'appelle Alexandra Gros de Sola, pardon, qui est auteure-réalisatrice, qui va se présenter. Alors qui a un projet ou qui a déjà fait, je ne sais pas, elle nous dira. Et puis également celui qui a créé le festival Caméra au Champ, Luc Delmas, qui lui-même est élu, si j'ai bien compris. Mais je vais vous laisser le soin de vous présenter tous les deux. Donc vous commencez peut-être, Alexandra, et puis Monsieur Delmas poursuivra.
le jour. Du coup.
Vous faites de la fiction,
oui, tout à fait. De la fiction.
Donc, que du documentaire.
Que du documentaire, d'accord. On pourra discuter après de.
Oui, enfin, moi, je suis un peu pris par le temps parce que j'ai un train derrière. Je fais aller-retour dans la journée depuis la veille.
Pardon. Donc, ça fonctionne. Si, ça marche ? Ouais. Comme ça, ah oui. Donc, je me présente. Donc, je suis Alexandra Grau-Desolage. Je suis auteure, réalisatrice et nouvellement productrice également. J'ai monté une société de production à Marciac. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai compris, donc j'ai répondu et merci pour l'invitation à cette invitation. Donc, et je suis venue ici pour parler essentiellement, à ce que j'ai compris, du rapport du cinéma sur le territoire et de ce que pouvait engendrer un long métrage, notamment L'œil du chameau, sur un territoire tel que le Madiranais. Alors, je vais situer peut-être le territoire du Madiranais et ensuite je parlerai du projet à proprement parler, peut-être, parce que peut-être vous ne connaissez pas ce territoire-là. Est-ce que je me trompe ? Oui, non ? Non. Voilà, alors, le Madiranais, c'est un territoire qui est à cheval entre deux régions, que sont l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, trois départements font partie de ce territoire-là, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Okay. Ensuite, on a, par rapport aux fusions des communautés de communes, il y a également trois communautés de communes qui font partie de ce territoire-là. Donc, essentiellement, ce territoire, s'il porte son nom, c'est le Madiranais, c'est lié à Madiran, au village de Madiran, et donc à l'appellation Madiran, qui est une appellation viticole, enfin, voilà, de vin. Voilà, donc après, c'est pas trop ma spécialité de construire, enfin, d'exposer la typologie d'un territoire, voilà, mais en tout cas, j'ai en tout cas brossé le portrait de manière brève. Par rapport au projet de long métrage, c'est donc mon projet que j'ai écrit, donc je suis auteur de ce projet, qui est produit par, qui est coproduit par Film & Co et Dominique Refker, et aussi bon, par moi-même, de fait, avec les films de la Mésange, et également qui est coproduit par Maluta Film, qui est situé à Donostia, c'est-à-dire au Pays Basque espagnol, en fait. Parce qu'on a une séquence à tourner là-bas et j'expliquerai après, par la suite. Donc, le film de projet, le projet long métrage, nous, on aimerait le tourner en 2018, en été 2018, dans le Madiranais. Essentiellement dans le Madiranais, c'est-à-dire 90% du tournage se passerait là-bas. Alors, aussi, pourquoi le tourner là-bas ? Bon, évidemment, je suis citoyenne de ce territoire et j'ai envie aussi que, qu'il y ait quelque chose qui naisse dans ce territoire aussi. C'est une volonté aussi, personnelle. Il y a aussi plusieurs choses. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose qui est important, c'est qu'une association est également partenaire de ce projet, et c'est Volva. Volva, c'est une association qui promeut la diversité et le développement culturel dans le territoire du Madiranais. Elle est toute nouvelle, donc ils ont plusieurs angles d'approche autour de l'éducation populaire avec des ateliers de cinéma. Alors il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Également un ciné-club un peu particulier, c'est-à-dire aller au-devant des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de manière générale. Donc en milieu rural, c'est beaucoup le cas quand même. Il y a quand même des cinémas, mais certaines personnes ne peuvent pas y accéder pour X raisons, hein, c'est-à-dire problème de mobilité essentiellement. Après, il y a aussi une volonté de notre part de s'ouvrir, enfin d'aller vers. Je dis de notre part parce que je suis membre active. Je ne fais pas ni partie du bureau, mais je suis membre active et voilà, notamment par rapport à la mise en place future de ciné-club en milieu pédiatrique. Voilà, c'est-à-dire proposer aux enfants dans ces milieux-là. Un cinéma différent et également une possibilité de se reposer un petit peu. C'est-à-dire, j'expliquerai peut-être après, je reviens sur le film. Donc, le film, c'est l'histoire d'une famille pied-noir, mais aujourd'hui, aujourd'hui, donc, de manière contemporaine, c'est un portrait d'une famille pied-noir aujourd'hui. Et en fait, ce qui est sous-jacent pardon, à ce portrait-là, c'est évidemment la question de la colonisation, de la décolonisation, et comment se répercutent les traumas de génération en génération, et comment aujourd'hui on analyse les choses. Et en fait, ce film-là, évidemment, est un point de vue, va devenir, en tout cas, permettra, je l'espère, de pouvoir discuter de ce sujet-là de manière plus apaisée. Quoi. Voilà. C'était vraiment dans cet objectif-là. Donc voilà pour le sujet. Et ensuite, pour l'inscription dans le territoire, il y a une histoire très, que je trouve assez belle et assez poétique. Parce que la guerre d'Algérie, également les pays du Maghreb qui sont concernés, évidemment la France et les pays d'Europe, qui ont été colonisateurs et ensuite qui ont colonisé inversement avec des échanges que l'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui. Par exemple, dans le territoire du Madiranais, on peut voir beaucoup de palmiers dans un paysage qui est quand même essentiellement, on va dire, qu'il y a des chênes, des feuillus, les vignes, le maïs, et puis après, voilà. Et donc cette espèce qui vient d'ailleurs, qui vient de, essentiellement des pays du Maghreb en fait, certaines, alors pas tous, hein, mais certaines graines ont été ramenées par des personnes venant du Maghreb, alors que ce soit des pieds noirs, que ce soit des immigrés algériens ou marocains, tunisiens, ou bien des harkis, ou bien des harkis y compris dans le premier groupe, ou bien des appelés. Voilà. Et je trouvais ça assez aussi joli, parce que quand on voit sur le... Enfin, en tout cas, l'image qui part, c'est-à-dire que on regarde ce paysage et en fait, on voit de temps en temps des palmiers surgir par-ci, par-là. Et je trouvais que c'était intéressant de percevoir que même dans le paysage global et rural occidental, eh ben, depuis les années 60, il avait potentiellement changé également, et pas seulement au niveau humain, en fait. Voilà. C'est bien sûr aussi un questionnement sur l'immigration. Et voilà, ça ne s'arrête pas à seulement... une communauté à proprement parler. Voilà. Et donc, par rapport au territoire à proprement parler, donc je reviens maintenant à celui-ci, donc, c'est né d'une volonté de situer le film dans le Madiranais, mais aussi de travailler avec les personnes qui sont dans le Madiranais, donc dans cette zone rurale, et voilà, un film qui pourrait porter aussi, qui pourrait avoir des retombées économiques intéressantes pour le territoire. Donc le Madiran, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la filiale viticole, et donc récemment s'est mis en place une fondation d'entreprise viticole qui a pour but de promouvoir la culture dans le territoire madiranais, les arts visuels, etc. Et donc cette fondation rentre en partenariat sur le projet. Également l'association dont je vous ai parlé, Volva, qui, elle, va, par rapport au projet, s'occuper de financement peut-être participatif. Et ensemble, en fait, l'idée, c'est de faire le film, mais également de faire profiter à tout le territoire de ce que le film va produire, en fait. Voilà. À tous les niveaux. Hein, voilà. Parce que, enfin... une retombée économique très basique, c'est-à-dire qu'un film rapporte à peu près 20 000 euros par jour pour le territoire. C'est-à-dire une retombée économique directe. Donc il y a à peu près 2 mois de tournage, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Mais ça, c'est juste sur une partie, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, quoi. Parce qu'après, il y a toute autre chose qui se met en place et tout ce qui peut participer à cette énergie collective. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Peut-être à vous maintenant,
oui,
pour le festival Caméra au Champ.
Oui, voilà, donc Luc Delmas, je suis adjoint dans une petite commune de 300 habitants qui se trouve en Lorraine. Pour ceux qui situent la Lorraine, le village se trouve à peu près entre Metz et Verdun. Pour ceux qui connaissent encore leur carte des départements, on est dans le col du Canard de la Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire que la Moselle est à 5 km et la Meuse est à 4 km. On est dans ce resserrement. Maintenant, parler de rémanence historique, on est vraiment dans le cas. Habituellement, quand je parle du festival, je parle plutôt du contenu, je parle plutôt cinéma, mais à vous entendre depuis ce matin, je vais plutôt orienter mon propos autrement. essayer de voir la place d'un festival ou des festivals sur un territoire. Parce qu'un festival, c'est quelque chose de spécifique au point de vue culturel, notamment par rapport aux collectivités territoriales. Généralement, c'est quelque chose qui vient de la base. Et c'est jamais quelque chose qui est décrété de manière institutionnelle, à la différence d'une offre, par exemple une offre en salle, ou d'un accompagnement, de cinéma itinérant. Alors si je prends l'exemple de notre commune, je peux dire d'une certaine façon que Ville-sur-Héron, notre commune, a fait le festival, c'est ce que je vais expliquer dans un premier temps, et qu'aujourd'hui le festival en partie fait la commune. Le projet fait la commune, alors que la commune au départ a été à l'initiative du projet. Pourquoi ? Parce qu'on est une commune du parc naturel, et très tôt, à peu près dans les années 80, je suis adjoint, je m'occupe des questions d'urbanisme, on a identifié ce qu'on a appelé un peu pompeusement la beauté banale de la maison Lorraine, pour essayer de réfléchir à son urbanisation dans les années futures. En gros, on faisait un document, Ville-sur-Héron dans 10 ans c'est quoi, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. À l'époque, on ne parlait pas d'intercommunalité, on se contentait de la structure que je mets bien, moi, c'était une structure d'égalité républicaine qui était le canton. Et voilà, donc c'était notre horizon, notre bassin de vie. À ce moment-là, on ne se posait pas les questions que je vais poser tout à l'heure. Et donc, il y a, dans le cadre du parc, déjà une identification de ce qu'est la Maison Lorraine. On avait l'avantage d'être une commune qui fusionnait deux villages types. Et d'emblée, on a refusé le lotissement. On avait des espaces creux. Et la première préoccupation, ça a été d'essayer de les combler. On est ainsi passé de l'étiage, hein, 200 habitants en 1975. Aujourd'hui, on est 311. Sans avoir créé de lotissement et donc d'avoir réussi cette gageure que j'ai eu l'occasion de présenter à Mme Duflo quand elle a été ministre Comette à une certaine époque de l'environnement, quand on a racheté une ferme, reconstitué le volume de la ferme, fait 4 logements BBC à l'intérieur en lui faisant une cartographie avec des calques où on voyait se superposer l'habitat ancien, l'habitat nouveau, l'habitat récent, les personnes âgées, les jeunes, les autochtones, les natifs donc, et les nouveaux, les chômeurs, et pour montrer qu'en fait il y avait, sans qu'on ait encore ces outils bien connus aujourd'hui de diversité et de mixité sociale, on avait réussi cette gageure. 311 habitants, on a une association qui s'appelle Foyer Rural, il y a 100 adhérents. C'est-à-dire qu'on a, dans le réseau des foyers ruraux, de notre département, on est un cas un peu à part. Et bon, une petite parenthèse, si on est sans adhérents, c'est parce qu'en fait, il n'y a aucune hiérarchisation des activités. On part du principe qu'à partir du moment où les gens sont au foyer rural, tout est possible. Et donc, aussi bien le baby-foot, la gym, le foot, le ping-pong, qu'ensuite le théâtre, la poésie, le cinéma, etc. Les gens sont là, ils peuvent, selon leurs affinités, le faire. Parenthèse fermée. Donc, à partir du moment où on a commencé à créer à l'intérieur de cette commune une prise de conscience de ce qu'était l'habitat, on a fait avec les Unions des Beaux-Arts de Nancy une identification d'un premier nuancier, qui a été d'ailleurs à l'origine du nuancier départemental, des tons de pierre, des tons de bois et des tons de ferronnerie. Et on a remis de la couleur dans le village. Et on a été amené à rédiger assez vite une charte communale, puis ensuite un plan d'occupation des sols, et aujourd'hui il n'y a plus, avec des règles d'urbanisme qui sont assez contraignantes, mais en même temps qui nous libèrent de la tyrannie de la mode. On parlait de mode ce matin, c'est-à-dire qu'on accompagne par des compromis sur la base de ce PLU, hein, aujourd'hui, les projets de restauration ou les projets de construction nouvelle, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas d'éclatement architectural, on a au contraire une grande unité. Alors j'insiste là-dessus et en ajoutant qu'on n'a pas du tout une démarche passéiste. Hein, je veux dire, dans une maison lorraine qui est a priori pas très belle, on peut très bien voir à l'intérieur un loft parisien. Sans massacrer la façade, on peut avoir de la lumière autrement. Bon, tout à l'heure, il y a quelqu'un du CPT qui était là, donc on travaille beaucoup avec le SAIE. Ils ont des tas d'idées aussi pour nous accompagner dans ces démarches-là. Je vais venir au cinéma. Et donc, à partir du moment où on avait déjà dans la commune une volonté de travailler, il a été relativement facile ensuite de trouver, en se greffant sur une fête qui existait, qui est une sorte de revivification des fêtes de renouveau du printemps, qu'on appelle les trimazos, qui sont des chants traditionnels du printemps, on a greffé le visionnage dans des granges de documentaires sur le monde rural. Et bon, on mettait au parc, on a demandé à une étudiante d'essayer de faire un petit mémoire sur la faisabilité d'un festival. Bon, elle l'a présenté en 1998. Et puis on s'est jeté à l'eau sans trop savoir où on allait, en disant, voilà, on va lancer une compétition documentaire sur le cinéma ayant trait à la ruralité dans le monde entier. Et donc on a vu arriver des films d'un petit peu partout. Et voilà, donc ça demande un travail un peu fou, puisqu'il faut sélectionner des films. On en garde à peu près une quinzaine tous les ans. Il y a une compétition et il y a tout un accompagnement qui se fait sur l'année et aussi en direction des scolaires, mais je ne vais pas trop développer. Simplement aller vers cette idée que ce festival qui a pris de l'ampleur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la commune qui a fait le projet, hein, parce que je pense qu'il n'aurait pas pu se faire ailleurs, hein, au moment où il s'est créé. Enfin, il aurait pu se faire ailleurs, mais si je compare avec d'autres festivals, en Lorraine, on a, on va dire, 5 gros festivals de cinéma. Il y en a au moins 3 qui sont nés comme ça. Le Festival du film italien de Villerue, qui est un des plus grands festivals du film italien avec Annecy en France, est parti d'une association de quartier. Et voilà. Le festival, d'où je sors parce qu'il vient de se terminer dimanche, du Festival du film arabe de Fabec, dans une cité difficile de Lorraine, est parti aussi d'une volonté à partir d'un centre social, dans un milieu difficile, de réhabiliter le cinéma qu'on ne voit jamais. Et bon, si je compare rapidement, par exemple Gérard Maire, c'est différent, c'est un festival du film fantastique qui est l'ancien festival d'Avoriaz, qui s'est délocalisé à Gérard Maire et qui rajoute à cette ville touristique un plus, tandis que là c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que c'est parti d'initiatives locales avec des volontés locales, des volontés associatives, des passions, du bénévolat et bien évidemment, je vais y venir, aussi du soutien financier des collectivités territoriales. On va essayer de comprendre, on va essayer de qualifier ce soutien. Et donc maintenant, la notoriété du festival fait que la commune en bénéficie. C'est-à-dire que les projets qui se montent maintenant dans la commune tiennent compte de deux choses. Ils tiennent compte de ce qu'on a projeté nous, pendant 20 ans. Donc, hein, je prends un exemple. On a vu il y a quelque temps un film qui s'appelait Boule d'énergie. Et actuellement, la commune est en train de réaliser une coopérative villageoise photovoltaïque. Parce que c'était dans un film. La question des haies, on a eu des tas de films sur les haies. Bon, il y a longtemps qu'on a signé des conventions avec les agriculteurs et la Ligue de protection des oiseaux. Une haie détruite, c'est des haies reconstruites et gérées collectivement, agriculteurs, communes, etc., etc. Les pesticides, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça, forcément, imprègne ensuite le milieu. Ça, c'est un premier aspect qui fait qu'on ne peut plus gérer la commune en étant en porte-à-faux ou à 180 degrés de ce qu'on donne à voir et à réfléchir dans le festival grâce à l'image, qui est quand même aussi un vecteur, je reviendrai sur votre question ou votre proposition tout à l'heure par rapport à des films qui peuvent se créer en territoire, on ne peut pas faire comme si on ne projetait pas, on ne peut pas avoir deux casquettes. Voilà. Et en même temps, bien sûr, il y a le fait que la notoriété ouvre des portes, tout le monde le sait. Hein, à partir du moment où le village est reconnu comme un village qui a la capacité de faire ça, ça nous facilite un certain nombre de choses, d'autant plus qu'on a eu deux événements qui ont consacré un petit peu cette expérience. Encore jeudi dernier, tout le groupe presse du quart nord-est de la France, a décerné le premier prix pour la préservation du patrimoine à la commune. Donc tout ça, ça crée une sorte de dynamique, et cette dynamique, on la retrouve ensuite pour les projets locaux. Alors ma question, et c'est un peu là où je voudrais en venir, c'est que ces festivals, qui sont soutenus pour le nôtre, plus de 80% par les collectivités territoriales, communes, intercommunalités, départements, régions, maintenant région Grand Est, État, donc par la DRAC. En fait, et comme tous les autres festivals, ces collectivités n'ont pas la main sur ces festivals. Ce n'est pas eux qui l'ont décidé. La compétence culturelle n'est pas une obligation. Ils nous accompagnent. La tendance serait de se servir de ces entités territoriales comme des guichets pour nous faire des chèques, point. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ils peuvent avoir un droit de regard par rapport à ces festivals et à leur contenu. On a déjà eu des colloques là-dessus, notamment au moment de la fusion. La réponse est non. Mais en même temps, leur problème, c'est de voir comment est-ce qu'on a parlé de mutualisation tout à l'heure, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans le fonctionnement de festivals qui n'ont absolument aucun compte, si on peut dire, à rendre en dehors des comptes de résultats de fin d'année et puis les papiers qu'on fait par copier-coller pratiquement chaque année pour dire voilà, on a fait ça, il y avait tant de participants, etc., etc. Donc comment est-ce que s'articulent aujourd'hui les nouvelles collectivités territoriales, en plus qui viennent de changer. Tout à l'heure, quelqu'un a dit il y a eu une compétition, une concurrence entre une ancienne interco qui a fusionné dans une autre. Ils savaient pas. Ben, nous, on a le même problème. On est soutenu par une intercommunalité qui vient de fusionner dans trois autres. Et on ne sait pas très bien comment les deux autres vont réagir par rapport au financement qu'on avait avec la première. La fusion des trois régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, qui est pleine de dissensions si vous suivez la presse, notamment avec des forces centrifuges. Bon, tout ça laisse des points d'interrogation, même si on a pour l'instant des garanties d'un maintien. Mais en même temps, on n'est pas dans une. Enfin, on aborde cette réflexion de savoir comment les collectivités territoriales qui nous aident peuvent éventuellement mutualiser des moyens, participer par exemple à des frais qui sont importants au niveau de la communication, puisque chacun fait son truc dans son coin. Bon. Voilà, c'est quelques pistes qui sont comme ça ouvertes à la réflexion. Voilà, pour le contenu du festival, très rapidement, parce que finalement je ne sais pas si c'est l'objet, mais très rapidement on va dire que on aborde à peu près tous les thèmes. Sur les, bon, je sais pas, on a toujours des films qui sont généralement écartés parce que dans le règlement, on écarte tout ce qui est passéiste. Le pain à l'ancienne, le moulin d'autrefois, le ruisseau qui murmure, etc. Nous intéresse peu. On veut des documentaires en prise avec le réel. C'est-à-dire des. Bon. C'est pas qu'on veut gommer la part d'émotion dans le documentaire ou même la part de nostalgie qui peut exister. Mais il ne faut pas que ce soit la ligne directrice. Par contre, dans le festival, qu'est-ce qu'on a eu depuis 20 ans ? On a eu, en gros, je vais faire rapide, on a eu une première phase avec une majorité de films qui étaient des films d'alerte. Tout va mal. Pesticides, vaches folles, enfin, désertification, mondialisation. Je parle. Hein, pour les films étrangers, ça sera encore un autre débat à développer. Aujourd'hui, on a des films qui sont des films qui continuent de pointer du doigt tout ce qui va mal et de dire pourquoi, d'essayer d'expliquer pourquoi. Mais en même temps, on a de plus en plus de films qui vont vers des solutions. Le problème, c'est que la cartographie des films qu'on a reçus depuis 20 ans dessine une carte de France, si je prends simplement les documentaires français, qui pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision partielle, et donc forcément partiale, qui nous est rendue par les documentaristes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de fer à cheval qui part de la Bretagne, qui prend vos régions, qui va dans les Pyrénées, le sud du Massif central, et puis qui remonte par les Alpes, les Hautes-Alpes surtout, pas la Côte d'Azur, et puis ensuite qui remonte jusqu'aux Vosges. C'est-à-dire une identification de la moyenne montagne pour les zones rurales, de la propriété de taille moyenne, voire petite, dans lesquelles, bien évidemment, à la fois les problèmes sont très prégnants et la déprise agricole très forte ou les difficultés très fortes, et en même temps où les solutions sont plus faciles. Quand vous avez 10 hectares, c'est plus facile de se reconvertir en bio quand vous en avez 400 avec plus d'un million d'euros de dette, d'engagement financier. Donc, on commence à voir quelques films qui nous parlent de grosses exploitations qui sont en train de se convertir. Mais ça, c'est vraiment récent. Par contre, en 20 ans, et sur à peu près, je sais pas, peut-être 1600, 1700 films qu'on a reçus documentaires, on a reçu un seul film sur le bassin parisien, le Nord Betteravier. C'est-à-dire que les documentaristes n'y vont pas. Je ne vais pas paraphraser ce que dit Gérard Mordillat. Quand, à force de faire des documentaires sur le monde malheureux, on fait des documentaires misérables. C'est-à-dire qu'on ne va mettre le pied dans les comptes de résultats de la petite paysannerie que dans les petits villages. Dans les, voilà. Bon. Ensuite, on a beaucoup de films sur les paysages, sur la poésie, sur des mondes disparus. Des souvenirs d'enfance, bon, très poétiques, intéressants, très beaux films, hein, des films qui montrent avec beaucoup de tendresse et beaucoup de silence le monde tel qu'il est, hein, si on prend le temps de le regarder. Ensuite, on a beaucoup de portraits, de Pardon oblige, hein, on a beaucoup de portraits de vieux, hein, donc de vieux isolés, etc. Un peu comme si derrière ces paysages, une certaine sagesse émanait, comme s'ils n'avaient pas connu aussi la modernisation et les aléas de la vie. La jeunesse, hein, quelques films sur la jeunesse. Et voilà, donc en gros, quels sont les thèmes qu'on a pour, en tout cas, le secteur français. et pour faire vite. Ce qui se passe dans le festival, je ne vais pas vous le dire, hein, si vous êtes abonné à la revue qui s'appelle 36 000 communes, qui est la revue de l'association des maires ruraux, le dernier numéro, les deux dernières pages, c'est un article que j'ai rédigé sur qu'est-ce qui se passe dans ce festival. Voilà. Cette année, le festival recommence. Donc dans l'année, on a aussi, par exemple, le mois prochain, on va passer la suite qui dérange, hein, le film sur le réchauffement climatique, avec un débat. Et ce que je veux dire dans les débats, oui, alors dans le festival, toujours un débat qui suit, en présence du réalisateur si possible, et d'experts. Bon, vous lirez dans l'article si vous le trouvez, qu'en fait, ce qu'on demande aux experts, c'est de s'adapter au public. Hein. Je dis souvent, un enseignant, quand il fait cours, il a deux avantages sur ses petits élèves, un peu moins avec les étudiants. Il a l'avantage du savoir et l'avantage de l'expérience de la vie. Mais dans l'éducation populaire, celui qui est le savant ou celui qui est l'expert, l'universitaire, il n'en a plus qu'un. Il a l'avantage de la connaissance, mais il n'a pas l'avantage de l'expérience de la vie qu'il doit partager. Et il doit aussi adapter la façon dont il parle, hein, quand il s'adresse à un public populaire qui va lui poser des questions auxquelles il ne s'attend pas forcément. Quand un réalisateur, on lui demande pourquoi il a tourné en noir et blanc, et pas en couleur, alors que la couleur existe, il faut bien qu'ils répondent sur le plan cinématographique, etc. Donc cette année, on aura deux thèmes, la jeunesse à la campagne, on l'a déjà fait il y a 10 ans, c'est quelque chose qu'on connaît mal, comme la pauvreté à la campagne, d'ailleurs, qu'on a traité il y a quelques années, et le deuxième grand thème, qui surtout en direction des agriculteurs, c'est agriculture intelligence face au changement climatique, et à chaque fois, on essaye d'avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Par exemple, sur le réchauffement climatique, on aura quelqu'un qui le constate et quelqu'un qui est plutôt un climato-sceptique. Il faut que les gens viennent faire leur marché d'idées. On n'est pas une chapelle. Hein. Je me souviens du débat qu'on a eu quand on a eu le film de Colin Serrault et quelqu'un qui était là. Bon, il s'adressait à des agriculteurs conventionnels. Et lui, il fait du bio dans le Haut-Var. Bon, c'était une catastrophe, son intervention. Et à la cuisine, il me dit « j'ai jamais été chahuté comme ça ». Ben je dis oui, mais moi, je n'ai jamais vu un curé se faire disputer à la messe. Si on ne parle qu'entre soi, c'est perdu. Donc, quand on a fait un débat sur les coopératives, il y avait le patron de Coop de France et on a fait venir le patron de la coopérative de Figeac, qui montre ce qu'est une vraie coopérative qui fonctionne encore comme autrefois. Quand on a passé le film Ambiance Bois, on a parlé du plateau de 1000 vaches tout à l'heure, on voit comment une coopérative ouvrière fonctionne depuis 30 ans, avec des postes qui changent, des salaires équivalents, des gens qui... Bon, c'est possible. Bon, je ne vous parle pas des films étrangers, il y en a qui me vient en tête, mais ces femmes qui résistent au Maroc, tisseuses de rêves, etc. J'ai fait un éditorial là-dessus. Toutes ces femmes-là nous donnent le devoir d'être des tisseurs de rêves aussi. Voilà.
Est-ce que vous pourriez préciser les dates, le temps que ça dure et,
voilà, oui.
Comment,
et le budget.
Oui, le budget. Et puis également, peut-être, je pense à des expériences comme Marcillac qui nous intéressent, oui. Ou Lussas ou les Voives dont je vous parlais dans les Vosges. Est-ce qu'on peut imaginer des films qui montrent justement des réalisations comme ça?
Oui, alors, bon, cette année, par exemple, on a eu Une poule sur un piano. Hein, je vais vous parler de Marcillac, qui est un très beau film, qui montre comment, à l'initiative de Parisiens qui avaient une maison de campagne, ils ont réussi à fédérer toute la population, des immigrés espagnols, des maçons, des artisans, des agriculteurs, etc., autour de la musique, hein, pour faire un collectif, hein, qui a réussi à restaurer un patrimoine. Mais ce n'est pas trop la restauration qui est intéressante dans le film, c'est la démarche. Et en même temps, dans la démarche, voir, tiens, qu'est-ce qu'un maçon espagnol fait dans ce bled ? On s'aperçoit, tout à l'heure vous parliez de la transmission aussi de la mémoire, et parfois de la mémoire douloureuse, hein, puisque vous parliez des pieds noirs.
Après, je parlais de trauma, mais après, il y a toutes sortes
non,
de mémoires.
Je suis fils de pied noir,
ah, ben voilà.
Petit-fils de pied noir, donc je sais de quoi vous parlez.
On va parler un peu plus longuement après.
Mais là, c'était ça. C'était des maçons, fils de républicains espagnols, réfugiés, etc. Donc tout ça se combine dans le film. Et le nom m'échappe, mais c'est l'âge. Le musicien qui venait, musicien noir qui venait des États-Unis pour animer ça, il a trouvé une correspondance entre ce monde de minorités qu'il avait vécu, lui, dans ses batailles pour les droits sociaux aux États-Unis, avec ce qui s'était tramé en Europe dans ces années-là, et puis la question de l'immigration, du regard qu'on a, etc. Bon. Alors, par contre, pour répondre à votre question, on reçoit des films, entre guillemets, institutionnels. On en a projeté un une fois parce que c'était notre débat, l'avenir des villages. Donc, le film s'appelait « Qu'on pense les oiseaux », et c'était un film qui montrait, de manière très vivante, la vie d'une interco. tout ce qu'il faisait, mais au lieu d'être énoncé avec un PowerPoint, on voyait les acteurs. Alors, c'est un art extrêmement difficile de faire un bon film sur une entité territoriale. Le risque, c'est le catalogue. Il manquera rien, hein, parce qu'il y aura tout. On va tout décliner, ce qu'on a lu tout à l'heure. On va tout filmer, tout le monde. Ça, au bout d'un moment, tout le monde dort. Hein. Et puis, cinématographiquement, ça ne vaut rien du tout. Quoi. Donc, on a aussi, dans le festival, un critère de choix cinématographique. Hein. Je veux dire, les films qui sont... J'ai des films en tête. Je me souviens d'un film. On voyait la révolte des Noirs dans le sud de l'Italie contre leur situation de néo-esclaves dans les grandes plantations des anciens latifundias récupérés par l'État sur la mafia. Bon, un sujet formidable. Mais le film... est redondant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un syndicaliste de la Confédération paysanne, j'ai rien contre eux, bien au contraire, mais qui vient redire mal ce qu'un des acteurs, bon, il se trouve, hein, avait déjà dit avec des mots. Bon. Donc c'est difficile de faire un bon film sur des sujets de société, mais on y arrive. Christian Tran, par exemple, a fait une trilogie, L'école en campagne, sur la fermeture des écoles, Le temps de l'urgence, la disparition des maternités en Ardèche, Poste restante, la disparition de la poste. Les films ont toujours été refusés par les grandes chaînes. Il a fait ensuite un autre film en Ardèche sur Parole de citoyens, sur les cas sociaux, les gens qui étaient tombés finalement dans le malheur en Ardèche. Alors, je vais répondre à votre question. Ça a lieu au mois de mai, tous les ans. C'est à peu près 3 500 entrées. C'est 42 000 euros de budget, dont à peu près 80% de financement public. Tout est gratuit. Les entrées sont gratuites. On a plusieurs fois fait le calcul. Certains nous l'ont reproché en disant oui, mais les gens ne se rendent pas compte du prix de la culture. Oui, mais moi, je fréquente des festivals. Quand je vais au festival de Dinard du film anglais, avec ma femme, on laisse 400 euros sur un festival. Bon. À Famec, on vient, les places sont un peu moins chères. On a vu 13 films, c'est pareil, c'est 200 euros. Donc, nous, on veut un public familial. Et comme je le dis, à 80% financé par l'État, ils ont déjà payé leur place.
Bien, merci pour ces précisions et peut-être des questions, des interventions. Pardon, et tu te présentes pour l'enregistrement.
Oui, bonjour Philippe Verin. Je travaille sur les potentialités locales. C'est très super, enfin, ces films ruraux sur l'espace rural. Souvent, j'ai souvent vu des témoignages au niveau technique, on parle de haies, de pesticides, etc. Enfin, ça fait 20 ans, etc. Par contre, c'est intéressant comment effectivement les gens du territoire de votre commune ou commencent à intégrer ces nouvelles idées. Par contre, il y a une nouvelle idée qui n'a jamais été soulevée, c'est notamment sur la propriété du sol. La propriété du sol. C'est-à-dire que personne ne veut y toucher. On parle de la rupture biologique. Moi, j'ai fait la rupture biologique il y a 40 ans, des circuits courts et tout ce qu'on veut. Mais personne veut toucher à la question de la production, les circuits courts. Qu'est-ce que c'est que la propriété du sol? Comment elle s'appartient entre l'usus et le fructus? Et là, personne ne veut y toucher. Personne, de gauche, de droite, ou rien du tout. Alors, est-ce qu'il y en a eu? Et où est-ce qu'il y en aura?
Oui, alors... Il y a eu deux types de films. Hein. On a eu, deux ans de suite, des films qui mettaient au cœur du problème l'association Terre de Liens. Donc, mais pas du tout de manière didactique. Ils montraient des cas précis, hein, de gens qui avaient pu, grâce à la conjonction d'une volonté d'installation, le rôle de la SAFER, les freins qui existent, parce qu'ils sont nombreux, sans se cacher derrière les boîtes d'allumettes, notamment les chambres d'agriculture, etc., qui ont montré comment on pouvait la question de la propriété. Bon, l'autre aspect par lequel c'était abordé, c'est le problème de la transmission. Alors, j'ai en tête un film déjà ancien sur une étude notariale. L'entrée était une étude notariale. C'était vraiment une entrée originale. Et puis ensuite, on avait la question de la transmission, notamment quand il n'y a pas d'héritier et la dispersion de la terre. Bon, je peux vous dire qu'on a un public local. J'ai vu pleurer un fils d'agriculteur qui était prof de physique, qui ne parle jamais dans le festival, qui habite dans le village, et qui a dit « Je suis le dernier qui a rompu le lien. » Fils unique, et il n'est pas fermier, quoi. Donc il a cassé le lien, parce que le débat c'était toujours à qui transmettre. Bon, ça pose énormément de problèmes. Ce matin on a parlé de démographie, ça pose le problème bien évidemment des régions. On a eu des films qui posaient le problème, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, entre la famille nucléaire et la famille souche, hein, qui hérite de la terre, les remariages des veuves. On a eu aussi ces films là, notamment sur le pays du sud-ouest, hein, sur le Pays basque, hein, où on a toujours un cadet en réserve, si jamais l'aîné qui a hérité. On le voit d'ailleurs dans une fiction bien connue, hein, qui s'appelle Martin Guerre. Mais nous, on a eu des films qui posaient ces questions-là. Ça, c'est pour la France. Hein, parce que dans d'autres pays, on a d'autres films où c'est complètement différent. L'année dernière, on a passé un film sur l'Écosse. Personne ne sait qu'à 80%, la terre appartient à des aristocrates encore aujourd'hui, qui n'y mettent jamais les pieds. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de se battre sous forme de coopératives terriennes pour se réapproprier la terre. C'est une bataille dont on parle peu. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, on est en prise avec le monde, et là, on a vraiment des débats de citoyens. Et je ne l'ai pas dit encore, mais une petite remarque en passant. Chaque fois qu'on a à argumenter auprès des collectivités territoriales, il faut répéter les mêmes arguments. Développement local, développement économique, tourisme, retombées financières, etc. Bien sûr, c'est important. Mais ce qu'on ne dit jamais, ou alors vraiment un petit chapeau rapide, et je plaide pour, c'est élever le niveau culturel de chacun. Faire qu'on grandisse ensemble, parce que grandir... Vous savez, l'année dernière, le film qui a primé, c'est le village de Riace, en Italie. C'est le village qui accueille des migrants qui échouent sur les plages de ce golfe de Tarente. Qu'est-ce qu'il a fait, le maire? Il les a repris, réinstallés dans les maisons vides du cœur de village, parce que lui-même était un village d'émigration. Et en plus, il y avait en parallèle dans ce film une vieille immigrée italienne, Lorraine, qui racontait comment elle a été reçue en France autrefois. Et donc, ce village, les gens reprennent des métiers, sont menuisiers, hein, et ils ont fait tâche d'huile. Ils sont 40 villages à faire la même chose. Et de notre village, il y a des gens qui sont allés à Riace pour voir ça, quoi. Alors, on l'a passé en pleine campagne électorale l'année dernière. L'accueil de l'immigré, sujet central au résultat aux élections, celle qui hait les étrangers est arrivée quatrième dans notre village. Voilà. Je pense que c'est clair. Je crois qu'il y a un débat. Ce débat culturel est à mener. Et culturellement, je trouve que dans le temps, on s'y retrouve. Et ça fait aussi une nouvelle identité.
Merci. Je pense que c'est une belle conclusion. Et en même temps, c'est une belle transition avec ce qui va suivre, avec Antoine Héron, sur justement la créativité citoyenne.
Je suis un petit peu désolé, mais je vais être obligé de repartir. J'ai fait l'aller-retour dans la journée. J'ai
des cas, merci de votre présence.
Ouais. Voilà, merci.
Bien, bonsoir et ravi d'être avec vous. Je remercie l'organisation de m'avoir invité à venir ici pour témoigner de l'innovation citoyenne dont je vais parler maintenant. Et avant d'intervenir, je voudrais vous dire que d'abord le thème créativité et territoire me parle énormément, parce que le territoire est d'abord le lieu de la synthèse. C'est un lieu où on voit toutes les problématiques se réunir. Et je souscris complètement à ce que disait André Brochet ce matin sur l'importance d'une approche symbiotique de la transition. Voilà, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on vient de présenter en début d'après-midi une approche très méthodique de l'innovation par des méthodes particulières. C'est une démarche tout à fait structurée et efficace. Il y en a une autre qui est la créativité spontanée. C'est-à-dire qu'en fait, en innovation, on peut dire qu'il y a deux grandes approches. Il y a l'approche du labourage méthodique et l'approche de la cueillette, c'est-à-dire que l'innovation est déjà là, simplement il faut la voir. L'innovation citoyenne se situe dans le cadre de cette cueillette. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à développer des méthodes d'innovation. Je dis simplement que les idées sont là, simplement on ne les voit pas.
Et donc, c'est une démarche qui déroute beaucoup. Pour vous donner une idée, j'étais responsable, je viens de l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile chez Renault, quand on a appris que j'étais chargé de promouvoir l'initiative et la créativité des salariés, j'ai reçu les grands consultants de la créativité, notamment le père d'Agnès Jaoui, qui est Hubert Jaoui, qui est le grand gourou des méthodes de créativité, qui est venu me voir dans mon bureau et qui m'a dit « Monsieur, j'ai un tas de méthodes pour vous où je vais vous donner des salariés créatifs ». J'ai dit, monsieur, vos méthodes, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est qu'on écoute les gens. Ils ont des idées, ils ont des problèmes. Par rapport à ces problèmes-là, ils ont des idées, simplement, on ne les entend pas. Et moi, je commence d'abord par écouter les gens qui ne... écouter ces idées-là. Alors, donc, il est reparti un peu triste. Mais moi, je tenais, effectivement, une approche qui est complémentaire. Tout à l'heure, on disait que l'enseignant... Les élites, les gouvernants sont des sachants, sont des gens qui, les experts aussi, sont des gens qui savent, par rapport à des gens du peuple qui ne savent pas. En fait, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, les gens du peuple, c'est qu'ils pensent différemment. Ils voient les choses autrement, ils pensent différemment et ils agissent différemment. Ils voient en général avant les autres, parce qu'ils sont sur le terrain et ils voient ce qui ne va pas. La sécheresse, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il y a la sécheresse, ils la constatent tous les jours. Et quand ils ont des idées... ils la mettent assez rapidement en œuvre. En général, ce sont des idées simples, etc. Donc, je pense que je voulais situer mon intervention un peu dans le prolongement de ce qui s'est dit aujourd'hui et pour montrer que il y a derrière cette démarche d'innovation dans les territoires, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tous les territoires sont créatifs par tous ceux qui y vivent et qui ont des idées. Alors évidemment, il faut aller les chercher, ça ne vient pas tout seul. Je vous signale qu'en Inde, il existe des instituts qui créent des marches, on dirait presque des pèlerinages, ils font des marches, ils font des tours dans toutes les fermes paysannes pour trouver les innovations, les solutions qu'ont trouvées les paysans à leurs problèmes. Et de là, il en débouche toute une sorte de savoir de ce qui émerge spontanément de la part des gens. Donc, donc la bonne nouvelle, c'est que les territoires sont créatifs, les solutions sont déjà là, mais encore faut-il les voir. Bien. Alors, je vais avancer un peu ma présentation. Oui, je disais que les gens du terrain ont un génie particulier, c'est qu'ils pensent, en général avec énormément de bon sens, avec les outils qu'ils ont, dont en général leurs réflexions sont simples, et souvent fait à partir de solutions qui viennent des choses qui sont autour d'eux. Ils ne vont pas chercher à l'autre bout du monde des solutions, c'est très proche de leur environnement. Et chez Renault, donc, j'avais demandé que dans toutes les usines du groupe, on fasse remonter régulièrement, tous les mois, les meilleures idées venant du personnel. Et on s'apercevait que la plupart de ces idées étaient hyper puissantes et tout en étant extrêmement simples. Et ça déroutait complètement les patrons de l'entreprise. On appelait ça la puissance des idées simples. Voilà. Alors, quand j'ai quitté Renault, j'avais fondé une association d'innovation participative qui s'appelle Innovacteur. Et ensuite, j'ai quitté Innovacteur pour m'occuper d'innovation citoyenne et développement durable. Parce qu'effectivement, le point commun entre toutes ces démarches, qu'elles soient méthodiques ou spontanées, le point commun au départ de la démarche d'innovation, c'est une sorte de rage, d'insatisfaction par rapport au statu quo. C'est-à-dire qu'il y a un problème, par rapport à ce problème-là, il y a une sorte de rage. Alors cette rage, on peut la teaser, on peut la cultiver, il y en a qui l'ont spontanément. C'est-à-dire que ce n'est pas acceptable que les choses se passent comme elles sont. Et donc de cette rage naît finalement une solution pour en sortir. Et donc cette tension... une fois qu'on a trouvé la solution, effectivement, il résulte ce que je disais tout à l'heure, la joie d'avoir trouvé une solution au problème que j'avais. Et cette joie est évidemment proportionnelle au problème que j'avais au départ. Et donc, effectivement, c'est très important parce que ça fait partie du moteur. Une fois que j'ai goûté à cette joie-là, ben, j'ai envie de continuer à développer, à être créatif. Et je n'ai pas peur des problèmes qui arrivent, je vais trouver une solution. Surtout quand on est plusieurs et qu'on a quelques méthodes, effectivement, on arrive à éprouver collectivement donc une joie. Donc ça donne une légèreté à la vie qui fait qu'on a confiance en soi. Enfin, il y a toute une série d'approches très positives. Donc c'est toute une série de bonnes nouvelles que de gérer cette innovation-là. Bien. Je ne veux pas être trop long. Évidemment, pourquoi j'ai créé, moi, innovation citoyenne et développement durable, premièrement, on m'a rien demandé. Je suis à la retraite, tranquille, j'ai de quoi vivre, il suffit d'aller faire le tour du monde 10 fois et puis c'est bon, quoi. Et ben non, parce que j'ai écouté Nicolas Hulot, j'ai écouté Artus Bertrand, j'ai écouté Hugues de Jouvenel, qui dirigeait la revue Futurible, etc. Et tout le monde disait dans les années 2005, on va dans le mur, c'est catastrophique, etc. Il y avait une espèce de sinistrose généralisée. Et j'ai dit, ben attendez, je n'accepte pas que face à un problème donné, on dise qu'on n'a pas les ressources pour les résoudre. On a les ressources pour les résoudre, donc commençons par accepter le problème, le voir en face, parce que le premier drame, c'est celui qui nie le problème. Tous ceux qui disent, non, il n'y a rien, on s'en fout, laissons tomber. C'est bon, laissons ça aux générations futures, c'est pas grave. Non, voyons les problèmes en face, voyons, mais assumons notre condition d'homme et imaginons que face, l'humanité n'a jamais été mise devant des problèmes qu'elle n'a jamais su résoudre. Donc à nous de relever les défis. Bon. Donc c'est un petit peu dans cette rage-là que j'ai voulu identifier, y a-t-il parmi les citoyens des gens qui apportent des solutions à la hauteur des problèmes d'intérêt national. Il se trouve que j'ai été un petit peu dans tous les champs, le logement, le transport, l'alimentation, les manières de travailler. Et dans tous les domaines, il faut tout réinventer. Ampleur des enjeux, on aurait tendance à baisser les bras, alors que des solutions sont là. Alors maintenant, il va falloir quand même que je vous montre quelques solutions. Mais avant de passer aux solutions, je voudrais d'abord vous raconter une histoire. L'histoire, c'est que, bon, on démarrait, j'étais suivi par pas mal de gens qui me connaissaient à travers l'association Innovateur que j'avais créée. Je connaissais pas mal de grandes entreprises, j'étais avec le ministère de la Défense, avec la SNCF, la Poste, la RATP, enfin toute une série d'organisations, et le PDG de Renault me suivait aussi. Donc on m'a soutenu dans ma démarche. Bon, mais en fait, je voulais lui donner quand même un certain poids, une certaine image. Et donc, j'ai appris que dans une école à Fézin, un site Sauvezo connu en France au sud de Lyon, une immense raffinerie, on avait fait travailler le CM1, CM2 sur le thème du développement durable. Et donc, faire travailler des enfants sur le développement durable, c'est intéressant. Ils ont un regard particulier, les enfants. Ils ont leur expertise d'enfants. Et on leur a demandé d'imaginer un autre monde que celui dans lequel on allait les plonger. On leur a expliqué que ça n'allait pas, mais qu'est-ce qu'ils pourraient rêver ? Ils se sont mis à dessiner et ils ont fait appel à un artiste qui a mis tous ses dessins en forme. Ils ont fait une immense fresque qui a sur 30 mètres de long. Ça a été peint sur les murs le long de la rue Tristounette où était l'école. Il se trouve que j'ai un neveu à Fézin qui était dans cette classe de CM2. Et ma belle-sœur m'a dit, viens voir, il y a un truc intéressant, tu devrais... Ça mériterait d'aller. Alors, je suis allé voir et j'ai vu effectivement des murs. Là, vous avez le haut du mur et puis des dessins. Il y en avait 30 mètres de long. Je ne vais pas vous balayer toute la fresque. Puis, à un moment, je me suis arrêté sur cette image-là, avec la mer, la falaise, etc. Et tout d'un coup, je vois ce soleil. Je me dis, mais qu'est-ce qui a été assez gonflé pour mettre la terre au milieu du soleil ? Tout le monde sait que ça brûle, le soleil. On ne va jamais mettre la terre dedans. Mais un gamin, il ne sait pas tout ça. Lui, il trouve que la Terre, elle est bien au milieu du Soleil. Je dis, mais c'est génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça ce qu'on voulait, et du coup, j'en ai fait notre logo. J'ai demandé l'autorisation à l'auteur, à la directrice d'école, à l'artiste, etc. On en a fait notre logo. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'étais logé à l'époque chez un consultant en innovation, qui lui-même avait un cabinet en innovation, et qui cherchait un logo. Et il disait, quand je pense tout le fric qu'on met pour faire un logo, tout ce que ça nous coûte pour des logos qui ne veulent rien dire, on ne comprend rien, etc. Et lui, il trouve gratuit un logo comme ça, il n'en venait pas. Il faut aller dans les classes de CM2 et vous allez trouver votre logo. Voilà. Donc c'est un peu le processus de cette démarche d'innovation citoyenne. Comment, quand on n'a rien, trouver des solutions aux problèmes qu'on a. Et on peut trouver. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par innovation citoyenne remarquable ? Bon, alors vous avez compris que tout le territoire est en effervescence en ce moment. Nous sommes des 60 millions de Français, 60 millions de créateurs potentiels, et il y en a pas mal qui créent un tas de trucs dans tous les sens. C'est effervescent. D'ailleurs, ça me rappelle que connais une consultante au Canada dont le cabinet s'appelle Effervescence, justement. C'est une très belle image. Bon, OK. Donc, on fait un tri. Mais c'est un tri drastique. Il faut que ce soit simple, puissant, peu coûteux, responsable, d'intérêt national. Et j'ajoute, ce qui n'est pas écrit, il faut que ça vienne de la part de gens à qui on n'a rien demandé. Et c'est d'intérêt national, mais ça vient de gens à qui on n'a rien demandé. Bon. Alors, ça restreint pas mal le champ des choses, mais ça permet quand même de travailler. Alors, au départ, je suis parti un petit peu à l'aveugle, les yeux grands ouverts sur tout ce qui allait, mais je ne savais pas trop ce que j'allais recueillir. Alors j'ai commencé par trier en différentes thématiques: le logement, le transport, agriculture, alimentation, santé, énergie, formation, emploi, responsabilité sociétale, économie circulaire, finance et monnaie, vie quotidienne et démocratie. Bien. Alors il faut savoir que dans toutes ces thématiques-là, j'ai une dizaine d'innovations simples, puissantes, pas chères, etc., qui viennent de gens qui n'ont rien demandé et qui mériteraient d'être connus. Bon. Alors, je suis en train de mettre ça sur un site internet pour que vous puissiez bénéficier de toute cette manne. Mais c'est tout. Comme je travaille avec rien, parce que je suis parti de rien, hein, André connaît le système, c'est un peu lent, mais on y vient. On y vient. Alors, en fait, comment j'ai fait ça, c'est que, au départ, j'ai commencé par organiser, par repérer des pionniers. Les pionniers, ce sont des gens qui font comme les autres, sauf qu'ils ont une longueur d'avance, ils ont anticipé les problèmes. On ne leur demandait pas plus qu'à d'autres, mais ils ont décidé, eux, de prendre le problème à bras-le-corps et d'avancer là où personne n'avait été. Alors, il y a des entreprises pionniers, il y a des territoires pionniers. Je pense à ce festival qu'on vient d'entendre. Voilà un exemple de pionnier dans un champ donné. Voyez, on ne lui a rien demandé, mais il a décidé de le faire parce qu'il en a envie et il pense que c'est une bonne voie. Donc, j'ai réuni des pionniers, donc des territoires, des entreprises pionnières remarquables, et puis des citoyens. Et j'ai organisé pendant 4 ans le festival des pionniers qui s'appelle les Rencontres de l'innovation citoyenne. Mais ça, c'est énormément de boulot. Vous voyez bien ceux qui organisent ici une conférence comme ça, on sait ce que ça demande comme boulot. Ensuite, moi, je n'avais pas la chance d'avoir une salle gratuite. Il fallait à Paris trouver une salle, c'est... J'ai passé 6 mois de mon temps à m'occuper de la salle, puis après m'occuper de qui viendrait, puis trouver une date où la salle serait libre. Enfin bref, au bout de 4 ans, après avoir reçu le coup de cœur de Nicolas Hulot, le coup de cœur de Jacques Attali, les encouragements de Jean-Paul Delevoye, tout le monde applaudissait, à la fin j'ai dit j'en ai marre, j'arrête. Et ça s'est terminé par la COP 21, où je me suis dit je vais simplement me contenter d'aider les innovateurs. Il y a des innovateurs géniaux. Par contre, comme ils sont tout seuls et qu'on leur a rien demandé, ils emmerdent tout le monde. Et donc, on fait tout pour que ça ne débouche pas. On ne veut pas les voir et donc on va les aider. Bon. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant. Et alors, donc, à l'époque de la COP 21, j'ai voulu être présent donc au Bourget et au Grand Palais au Grand Palais à Paris. Et on a pu présenter une vingtaine d'innovations citoyennes pour le climat. C'était déjà pas mal. Et enfin, je me suis rendu compte à ce moment-là que sur les différentes thématiques, il y en avait 4 qui ressortaient plus que d'autres. C'était le transport, les transports doux, transports électriques, etc. Bon, ça part un peu dans tous les sens. Effectivement, il y a pas mal d'innovations dans le domaine du transport. En énergie, alors là, en matière d'énergie, il y a pas mal d'axes intéressants. Responsabilité sociétale, plutôt sous l'angle l'aide aux personnels handicapés. Il y a beaucoup d'innovations citoyennes qui viennent des handicapés, parce que beaucoup de citoyens ont parmi leurs proches des handicapés qui ont besoin de solutions, qu'on ne trouve pas, qui sont trop chères. Donc des solutions simples et puissantes, il faut demander aux citoyens, vous allez en avoir. Et puis en économie circulaire, parce que les gens sont conscients qu'il faut que les déchets redeviennent des ressources. Voilà. Donc, ce qui est, d'ailleurs, l'économie circulaire, c'est l'économie de nos grands-parents. Hein. Ils ont toujours fonctionné comme ça, sauf que, donc on revient au basique. Voilà. Bon, quelques exemples. Alors, je vais vous donner dans chacun des domaines. Je vais vous donner tout de suite quelques exemples. Bâtiments, immeubles en terre, paille et bois. Bon, je regardais, vous avez la revue Demain ici, ils sont en train de parler maintenant de gratte-ciel en structure de bois. Bon. Pour l'instant, moi, ce que je connais, c'est des immeubles de 7 étages pour bailleurs sociaux en Lorraine, qui fonctionne très bien. Et la particularité des logements en paille, terre et bois, c'est que les gens qui y habitent sont très heureux d'être dans des logements respirants. Si vous êtes dans du béton, ça ne respire pas. Mais donc on ne peut pas savoir, nous on ne connaît pas. Mais si vous êtes dans... Il y a un bonheur de vivre, encore une fois le bonheur, quand on est dans des choses naturelles. Et celui qui me l'a dit de manière très claire, c'est le patron de Ecocer. Ecocer est l'organisme de certification bio en France, du côté de Toulouse. Il a un siège que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Attendez. Non, attendez, je me trompe de sens. Voilà. Ça, c'est le siège d'Ecocer. Terre, paille et bois. Et il me dit, mais depuis qu'on a ça, c'est le bonheur pour tout le monde. Voilà, parce que c'est très agréable. Et comme c'était moins cher que ce qu'il avait prévu dans le béton, ben, il a pu se doter de tous les systèmes de régulation qu'il voulait. Son bâtiment, maintenant, est à énergie positive. Voilà. Donc, voilà un homme heureux. Alors, je reviens sur le bâtiment, immeuble en paille, terre et bois. Ensuite, transport. Vous connaissez l'idée du covoiturage, c'est pas... Mais voilà un exemple d'idée simple, puissante et pas chère, et qui est venue de quelqu'un qui était dans la Silicon Valley, qui est revenu nous mettre ça en place avec Blablacar. Bon, c'est une solution intéressante. Il y a d'autres solutions qu'on verra tout à l'heure. Agriculture, tout le monde connaît le maraîchage en permaculture. Ce qui m'a plu dans ce champ-là, c'est Maxime de Rosteland, du côté de Mont-Louis-sur-Loire, près de Tours. C'est un projet de 1000 fermes d'avenir, c'est-à-dire de pousser des gens à revenir à la terre et à vivre de sa production à partir d'un ou deux hectares de maraîchage en permaculture intensive par les méthodes qu'on connaît maintenant assez bien, la méthode du bec et loin, enfin des promoteurs de permaculture en France. Et je vais vous présenter tout à l'heure un exemple en matière d'énergie. Récupération d'énergie fatale. Alors, l'énergie fatale, moi, je ne sais pas trop ce que c'était. En fait, quand vous voyez tout à l'heure, ce matin, là, j'étais voir du côté de Civaux, vous avez un magnifique usine nucléaire. L'énergie fatale, c'est toute cette énergie qui part dans l'air, à part chauffer les crocodiles. Sinon, ça part dans l'air. Et voilà, c'est fatal. C'est irrécupérable parce que ça part dans l'air, ça part dans les océans, ça part dans les rivières, et voilà. Alors, il y a un professeur de physique qui a eu la vision que dans les échanges intimes entre l'air et l'eau, il y avait une possibilité de créer, de récupérer l'énergie fatale de manière extrêmement simple. Alors, en ce moment, il est en train de récupérer la chaleur des fumées de chaufferie. On a des chaufferies avec un tuyau à la fin, avec éventuellement plus ou moins de poussière et de gaz. Lui, il récupère ça et il le fait passer dans l'eau. Ça lave les fumées et en même temps, il récupère la chaleur. Et ça fait de l'eau chaude qui repart ailleurs. En ce moment, il est en train de récupérer l'énergie fatale des cocottes minutes énormes qui servent dans les abattoirs pour cuire les restes des animaux pour je ne sais quelle poudre de farine de je ne sais pas quoi. Mais la cocotte minute, elle, vous connaissez la cocotte minute, ça part, c'est de l'énergie fatale qui disparaît. Il récupère ça, il va chauffer la ville de Vitré. Tout un réseau de chaleur va être alimenté uniquement par les fumées de ce type d'abattoir. Bon c'est, excusez-moi, hein, c'est pas très joli comme image, mais bon, c'est la réalité de la récupération d'énergie fatale. Ciel bleu, ça c'est un coup de génie d'un professeur d'éducation physique qui ne voulait pas être enseignant. Après tout, on a la vocation qu'on peut. Hein, et il aimait bien la gym, mais il n'aimait pas trop l'enseignement tel qu'il était pratiqué à l'éducation nationale en éducation physique. Il voulait travailler plutôt au niveau des personnes âgées. Il est allé faire son stage en maison de retraite. Et il a... Vous connaissez Ciel Bleu ? Vous connaissez tous ? Qui ne connaît pas Ciel Bleu ? Vous ne connaissez pas ? Bon, alors, Ciel Bleu, c'est une entreprise maintenant de... ils sont près de 500 ou 600 kinés, qui donnent de la joie aux personnes âgées dans la maison de retraite. Ils donnent des années à la vie et de la vie aux années. Voilà. Et en fait, il a commencé par faire un stage. Et à la fin du stage de 3 mois, le directeur de la maison de retraite lui a dit « Bon, bah, c'est sympa, mais maintenant c'est fini. » Et ce sont les personnes de la maison de retraite qui disent, mais attendez, là, il nous fait revivre depuis 3 mois, là, on rigole bien, on fait, enfin, on existe, on se remue, on bouge, etc. Il a inventé une sorte de gymnastique ludique qui entretient les gens physiquement et ça les libère de leurs nœuds internes. Le directeur a été obligé de reconduire son contrat. Au départ, ils étaient 2, maintenant, ils sont 400, 500. Et ça démarre à l'étranger. Voilà. Alors, ils ne travaillent pas que pour les personnes âgées, ils travaillent aussi dans les entreprises, pour les travailleurs qui ont des métiers difficiles. Peut-être pas assez connu, mais ça mériterait d'être connu dans toute la France. Il y a vraiment de quoi. Un truc génial. Parmi les innovations absolument géniales, c'est ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde avec ses territoires zéro chômeur longue durée. Ça, c'est absolument génial. C'est récupérer des ressources que sont les chômeurs et voir les chômeurs non pas comme un poids, mais comme une ressource en disant un chômeur a envie de travailler. La 90% des chômeurs ont envie de travailler. Alors par contre, il faut leur dire, il faut peut-être les aider à prendre le chemin entre leur envie et la réalité des choses. Et donc ce chemin-là, il faut le travailler. Et ça, c'est un travail collectif. Effectivement, c'est un défi collectif qu'ils sont en train d'étudier dans le territoire zéro chômeur longue durée. Voilà. Responsabilité aide aux personnes handicapées, j'en ai parlé. Économie circulaire, le robot des vaseurs. Voilà, ça c'est quelqu'un qui parle de chez vous. Vous êtes dans les marais du Poitou. C'est quelqu'un qui est un technicien des câbles sous-marins, qui est contacté par son beau-frère parce que son marais est en train de s'embourber, il s'en vase, il voudrait bien que l'eau circule dans son marais. Tu ne pourrais pas m'aspirer cette vase, me libérer de cette vase qui m'encombre. Bon. Et le gars, il a l'habitude de travailler sous l'eau avec ses méthodes. Machin. Il a fini par mettre au point le robot des vaseurs, donc une machine qui se balade au-dessus d'un étang et qui aspire la vase. Et ce qu'il veut, c'est récupérer cette vase, la conditionner pour en faire un nouveau compost ou contribuer à élaborer du compost. Donc c'est vraiment l'économie circulaire. La terre revient à la terre. Vous voyez, la terre qui se perd, qui comble les fleuves, les marais et les ports, pourrait se recycler plutôt que pratiquer la méthode du dragage, qui est bien connue des gens du métier, mais qui ne résout rien, qui ne fait que reporter un peu plus loin le terrain. Là, il s'agit d'une économie circulaire. C'est tout simple, mais vous voyez, ça vient des gens à qui on n'avait rien demandé et qui ne sont pas du métier, mais qui pensent les choses à l'envers. Voilà. Bon, finance et monnaie, vous connaissez peut-être le compte Nickel ? Oui, donc c'est le fameux compte qui permet aux gens qui sont interdits bancaires d'avoir un compte en banque. Ça a l'air de rien, mais c'est assez génial. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'énorme travail qu'il a fallu faire pour arriver à cette idée simple, compte tenu de la juridiction bancaire. Et puis, la vie quotidienne... Bon, j'ai cité en exemple, j'ai bien apprécié une intervention tout à l'heure du maire de Plaisance, je crois, qui disait toutes les innovations, toutes les initiatives qu'il a prises, qui à la fois lui faisaient faire des économies tout en étant écologique. Donc, le guide éco-frugal, c'est ça, c'est comment dans la vie de tous les jours, vous pouvez apprendre à être économique, à être écologique, sans que ça vous coûte cher, et même en gagnant des sous. Et donc tout son guide, vous pouvez aller voir, c'est le guide Marabout Éco-Frugal. Au départ, il y avait 100 fiches, il y en a peut-être 150 maintenant. Vous avez un tas de fiches sur comment vous fabriquez de l'eau gazeuse, comment vous fabriquez... il y a toute une série de choses de la vie quotidienne. Il vous explique comment être écologique et que ça vous rapporte. Voilà, c'est assez étonnant. Alors lui, Philippe Lévesque, c'est un ancien trader de grande banque américaine. Qui s'est reconverti dans l'écologie. Et quand je l'ai connu, il était en train de partir avec un combi Volkswagen sur toutes les plages de France pour vendre son guide éco-frugal aux gens qui étaient en train de se bronzer sur les plages. C'est assez marrant, il allait de plage en plage à vendre son guide. C'est assez étonnant. C'est pour montrer la rage qu'il y a chez certains qui veulent changer le monde. Et c'est assez extraordinaire que de voir ça. Voilà. Alors donc, je vais terminer par quelques images. Ça, c'est Freeway. C'est un exemple de transport urbain doux. En gros, l'idée, c'est que c'est pas un vélo, c'est pas un scooter. Là, on le voit pas trop, mais c'est un tricycle. Il y a deux roues à l'avant, donc ça donne une certaine stabilité. Et la particularité, c'est qu'en fait, il est pliable. En dessous, vous avez comme une planche, comme une trottinette, là, vous avez une batterie qui vous donne de l'autonomie. Il peut rouler à 25 km/h pendant sur 25 ou 50 km. Bon, vous avez une certaine autonomie, ça dépend si la ville a des variations d'altitude, mais sur du plat, c'est très pratique. Et beaucoup de villes sont en terrain plat. Voilà, donc ça, c'est Freeway. Voilà un exemple de l'intérêt, c'est qu'il se replie, donc il se transporte comme une valise, donc vous ne vous le faites pas piquer. Vous voyez, ce genre d'idée, c'est vraiment le citoyen qui se crée un truc et il n'a pas envie qu'on lui prenne. Bon. Ça, c'est la ferme de permaculture. Vous voyez, avant, c'était un champ qui produisait rien que de la pelouse et un beau paysage. Et ça, c'est la permaculture, c'est le foisonnement productif de la permaculture à la Bourdaisière, près de Tours. Jean Bouteille, alors lui, c'est sa marque, mais il ne s'appelle pas Jean Bouteille, mais c'est sa marque. C'est celui qui invente le retour en arrière à ce qu'on a connu autrefois, c'est le recyclage des bouteilles. Et donc, tout est vendu tous les liquides sont vendus dans une bouteille standard qu'il a mis au point, et tout est recyclé. Donc, je lui ai demandé si son idée fonctionnait, et effectivement, il avait 4 ou 5 magasins en développement l'année dernière, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais c'est une idée qui était simple, puissante, pas chère. Voilà, ça c'est un exemple de récupération d'énergie fatale dans une piscine. Une piscine, c'est un gouffre énergétique d'une certaine manière, parce que toute l'eau est chauffée de l'ordre de 26-27 degrés, ça s'évapore bien sûr. Ça s'évapore, l'air est chargé d'humidité, donc on est un peu comme dans un hammam, donc il faut évacuer cet air, il faut donc des appareils. Bon, lui, il a à Lillebonne, il a mis au point un recyclage récupération de chaleur, si bien qu'il a divisé par 3 la facture énergétique de la piscine avec son système d'échange entre l'air et l'eau. Ça, c'est dans l'aide aux handicapés. C'est un inventeur qui, à partir d'un smartphone qui possède... Chaque smartphone a une capacité de calcul assez phénoménale. Donc, il dévie la puissance de calcul d'un smartphone en utilisant une application, en créant une application qui... là, vous avez un exemple où vous mettez les écouteurs d'un smartphone et vous diagnostiquez votre oreille droite et votre oreille gauche. On vous envoie des sons standards, l'appareil vous envoie des sons standards de chaque fréquence, et à partir du moment où vous écoutez, entendez, vous dites, tiens, là j'entends. Bon, donc vous faites vous-même votre audiogramme. Bon, oreille droite, puis oreille gauche. Et à la fin, vous commutez l'appareil, et le son qu'il reçoit est corrigé sur les deux écouteurs, oreille droite et oreille gauche, de la perte que vous avez sur chacune des oreilles. Donc, pour des malentendants, pour 20 euros, vous avez une solution qui vous permet de sortir de ce problème. Bon, ceci dit, il y a d'autres innovations en ce moment qui vont encore plus loin. Il y a quelqu'un qui a utilisé un smartphone pour permettre, je crois que d'ailleurs c'est un iPhone plutôt, qui permet, quand vous parlez, de transcrire immédiatement le texte de ce que vous dites. Et donc, il permet à des sourds profonds de suivre une conversation en direct. Parce qu'on lui parle, et lui, il lit le texte de ce qu'on vient de lui dire. Et ça, c'est assez puissant. Bon. Le même auteur, inventeur ici, pour les malvoyants, a mis au point, par exemple, vous avez perdu vos lunettes, vous avez un texte, vous ne savez pas le lire, il photographie la page et le smartphone lit la page. C'est le même inventeur. Autre, vous connaissez le problème d'accessibilité au bâtiment public ou chez soi quand il y a 3 marches à monter, quand vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes coincé. Alors en général, il y a une loi qui oblige à ce qu'il y ait possibilité d'accès. En fait, ça coûte tellement cher que la loi est toujours reportée à plus tard. Lui, il a conçu, comme une plateforme à l'arrière des camions, hein, un système qui permet de monter, mais au lieu de ce que ce soit vertical, c'est en oblique. Il suit la pente qui est là, et donc c'est en train de se mettre en place. Ça a été primé par le ministère de la Défense pour tous les blessés de la Défense qui sont handicapés. Bon, ceci dit, il ne suffit pas que ce soit primé pour que ça existe, hein. Voilà des exemples d'innovation intéressante. Alors, Dans chaque région, moi je demande, je suggère qu'il y ait au niveau national, mais dans chaque région, une sorte d'observatoire comme ça, des innovations techniques citoyennes locales avec soutien et promotion aux innovations, parce que c'est compliqué de passer de l'idée, même si elle est bonne, si elle est saine, si elle est validée par un comité d'experts, et derrière, bah, il faut passer à l'acte, et passer à la mise en œuvre, et ça, en général, c'est douloureux, c'est difficile. Il y a plein d'obstacles. Il faut vraiment aider parce que l'homme ne peut pas tout faire. Faire remonter au niveau national ce qui peut se transposer, s'appliquer facilement partout. En retour, promouvoir localement des innovations réalisées ailleurs et qui ont un sens localement. C'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer vous-même de ce qui se passe ailleurs. Bon, voilà, il y a tout un programme. Donc, moi, je vous demande de nous faire connaître les idées qui nous viennent de Poitou-Charentes. Je suis prêt à...
Nouvelle-Aquitaine.
Et même dans toute la Nouvelle-Aquitaine.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je demande à Jackie Libaud de nous rejoindre pour prendre la place et nous parler de balades au jardin, de guérilla gardening ou d'autres formes de ce type qu'il a pu rencontrer ou qu'on peut rencontrer lors de ses balades.
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci à Jackie de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais commencer par vous résumer rapidement mon parcours. Moi, je suis né pas loin d'ici, en Vendée. J'ai fait des études d'horticulture. Ensuite, je suis monté, à Paris pour travailler dans des jardineries, puis dans des entreprises paysagistes. Là, j'avais une petite vie un peu métro-boulot-dodo au bout d'un certain temps. Et puis, à partir de 2000, j'ai commencé à travailler pour la ville de Paris en tant que conférencier pour faire visiter les jardins parisiens. J'étais seulement vacataire, je suis toujours vacataire à la ville de Paris pour faire ces visites. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire visiter les jardins parisiens. En 2008, je suis parti travailler en Égypte pendant 2 ans et demi dans une grande entreprise de paysage. Et puis ensuite, je suis rentré avec le printemps arabe et là je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et j'ai pensé mettre à profit mon expérience dans les jardins parisiens et j'ai voulu devenir conférencier indépendant. Alors, je n'ai pas trouvé la solution d'être auto-entrepreneur. Je suis rentré dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Copanam et qui me permet d'être à la fois conférencier et jardinier. Donc en gros quand il fait beau je fais des visites de jardin ou de quartier et quand on arrive à la mauvaise saison je travaille à la journée avec des collègues paysagistes. Je fais aussi des conférences en salle sur divers thèmes qu'on peut me proposer. Alors moi je fais rien normalement, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, normalement ça marche tout seul, hein, c'est ça, voilà. C'est juste des illustrations de ce qu'on peut voir dans mes balades, enfin c'est ce qu'on voit à Paris, tout ça c'est pris par moi dans les rues parisiennes. Et donc je fais ça depuis 2011, et alors il y a deux solutions, soit je travaille pour des groupes déjà constitués, c'est en général des associations, éventuellement des écoles, des entreprises, des centres sociaux, enfin tous les gens qui veulent bien me demander des visites. Et puis je travaille aussi pour des institutions comme la ville de Paris, le département des Hauts-de-Seine, la fête des vendanges de Montmartre ou autre. Et là, à ce moment-là, ce sont des gens qui viennent en individuel suivre mes balades. Alors, ce travail-là est intéressant parce que ça laisse beaucoup de temps libre. Donc ce temps libre, je le mets à profit pour faire de la veille. Et puis justement, moi je vois mon boulot comme faire l'interface entre le citoyen lambda et son environnement urbain qu'il a sous les yeux mais que parfois il ne remarque pas. Donc quand on se balade, l'idée c'est de pouvoir identifier tous les arbres, tous les végétaux qu'on peut voir, tous les animaux, tous les oiseaux, faire remarquer à des urbains qu'au-dessus de nous tout d'un coup il y a un épervier qui est en train de tourner là-haut et qui se bagarre avec une corneille, ce que la personne n'avait pas forcément vu. Donc ça c'est mon travail dans les balades. Et puis pour en arriver effectivement à ce temps de veille, j'ai aussi le temps de participer à des associations. Donc je suis plus ou moins investi aussi bien pour dans le CORIF, donc le Centre ornithologique d'Île-de-France qui va fusionner bientôt avec la LPO, à la Société d'horticulture de France, l'association Graines de Jardin qui fédère tous les jardins partagés d'Île-de-France, l'association Les Vergers Urbains qui vise à rendre la ville comestible, si on peut dire, en faisant rentrer des fruitiers et des légumes dans les rues, enfin plein d'associations comme ça. Et mon travail, c'est vraiment comme ça, de faire l'interface entre les citoyens de base et le territoire. Alors, mon territoire de prédilection, c'est le quartier de la Goutte d'Or où j'habite. Je suis arrivé dans ce quartier en 93, mais comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, je ne connaissais pas vraiment mon quartier puisque c'était métro boulot dodo. Depuis que je suis rentré en 2011, j'ai vraiment réinvesti ce quartier. Et il se trouve que dans ce quartier, il y a donc l'association Graines de Jardin, pour laquelle je fais chaque année une balade musicale dans les jardins partagés du quartier. Il y a un établissement public de la ville de Paris qui s'appelle l'Institut des cultures d'Islam, qui fait deux festivals par an et qui très souvent me demande une balade dans le quartier en fonction du festival. Donc j'ai fait une balade sur l'Algérie à la Goutte d'Or, l'Afrique noire à la Goutte d'Or, la poésie à la Goutte d'Or, la musique à la Goutte d'Or, enfin à chaque fois avec un parcours différent dans le quartier, ce qui permet à la fin vraiment de connaître très fortement le territoire. Ce matin, on a parlé de l'INSEE, il se trouve que je suis aussi agent recenseur pour la mairie du 18e dans le quartier de la Goutte d'Or, ce qui me permet de rentrer dans les immeubles, de voir qui habite et de constater qu'effectivement, il y a une grande différence entre les commerces de rez-de-chaussée et les gens qui habitent dans les immeubles. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Goutte d'Or, c'est un quartier qui est assez petit, il y a 20 000 habitants, et c'est un quartier avec plein d'ambiances différentes. Donc vous avez un quartier, un coin un peu gentrifié, comme on dit, autour de l'église Saint-Bernard. Vous avez le sud de la Goutte d'Or, qui est un quartier avec essentiellement des commerces maghrébins, et puis tout le quartier de Château-Rouge, où ce sont essentiellement des commerces d'Afrique noire. Alors c'est un quartier qui souvent fait peur, il y a encore de la prostitution, il y a de la drogue, il y a du deal, il y a de la violence. Pour autant, on peut y vivre très bien, enfin moi c'est ce que je fais, je suis très content d'être à la Goutte d'Or, c'est un quartier très très attachant. Et voilà, donc mon travail c'est faire ça et d'aller également à des réunions publiques pour savoir ce qui se passe et le restituer éventuellement aux citoyens. Et ce que l'on voit justement dans ces territoires, c'est un coin qui est en politique de la ville, et, enfin, ou quartier prioritaire. Et c'est très difficile finalement de tenir au courant les citoyens de ce qui se passe, puisque à toutes les réunions, on se retrouve toujours un peu comme aujourd'hui, entre bons blancs un peu éduqués, et tous les gens de la rue qu'on croise tous les jours ne sont pas là, et c'est la croix et la bannière pour leur faire... connaître les décisions. La ville de Paris veut transformer la ligne de métro aérien entre Barbès et la place de Stalingrad en promenade urbaine. Sous le métro aérien, il y a deux fois par semaine un marché. Et l'autre jour, il y avait une réunion au Bouffes du Nord de restitution des travaux. Donc les travaux durent depuis un an. Et là, il y avait les commerçants du marché qui venaient d'apprendre seulement presque la veille qu'on allait probablement impacter leur marché en faisant cette promenade urbaine. Et on voit bien que l'information ne circule pas forcément comme il faut et qu'on ne prend pas forcément les considérations de tout le monde en compte. Pour vous dire, le hiatus, un monsieur du marché désespéré... disait, il ne comprenait pas, il dit mais nous on se lève à 5h du matin, il y en a qui ont divorcé, qui ont ruiné leur vie familiale pour nourrir des gens qui viennent de toute la couronne parisienne acheter pas cher. Donc lui il se plaignait de ça, et à côté il y a un jeune homme qui suggérait que pour pas trop encombrer les rues, on dépose les marchandises des gens du marché un peu plus loin et que les gens du marché amènent tout en vélo cargo jusqu'à leur site de vente sur le marché. Donc vous voyez la distance idéologique ou pratique des gens qui étaient dans la même réunion, mais qui, c'était pas un dialogue de sourds, mais effectivement, chacun avait une vision différente de la ville et de ce que doit être la ville. Et de même, on a une friche SNCF qui s'appelle le dépôt Chapelle Ordonnaire, avec des halles magnifiques que la SNCF voulait raser. Et les citoyens ont dit, mais c'est pas possible, c'est la mémoire du quartier, faites-en quelque chose. On a un conservatoire de musique qui est tout près, qui est à l'étroit, mettez-le dans cette halle. On a une école d'architecture dans le 20e qui a des crédits pour déménager, mettez-la à cet endroit-là. Donc ça fait son chemin, mais on voit tout l'enjeu des friches parisiennes, où il y a 15 ans, c'était les jardins partagés qui investissaient ces friches avec un côté citoyen, non lucratif, plus démocratique. Et on voit bien que maintenant, si une friche se libère, c'est plutôt un collectif d'artistes, mais qui sont là un peu pour faire de la musique et vendre de la bière, et qui y a un côté mercantile qui s'installe dans toutes ces friches parisiennes. Et voilà, donc moi je vois toutes ces évolutions au jour le jour. Et dans mes balades, j'essaye, sans taper sur la tête des gens, c'est pas l'idée de faire rentrer des choses de force dans la tête des gens, c'est simplement de faire une balade pendant 2 heures dans un endroit et de montrer aux gens que ben voilà, cet arbre, il est arrivé de Chine au 19e siècle et il est là pour ci et pour ça, et que cet oiseau, ben, peut-être que vous avez entendu parler dans les médias des moineaux parisiens qui ont diminué pratiquement de 75% depuis 2003 à Paris. Là aussi, enfin, donc c'est des balades où on parle de tout ça. Ça brasse beaucoup d'idées. C'est interactif, les gens posent des questions. Et on éprouve vraiment la réalité du terrain. C'est pas un discours en l'air, c'est simplement on se promène ensemble, on voit, on parle de l'histoire du territoire. La Goutte d'Or, autrefois, c'était la ville de la Chapelle qui a été absorbée et complètement dépecée entre Paris, Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen. C'était une ville de 44 000 habitants. Et quand, en 1860, Paris s'est agrandi, cette ville a disparu. On a créé à la place le 18e arrondissement en mariant Montmartre et la Chapelle. On garde le souvenir de la Chapelle dans un des quartiers du 18e arrondissement qui s'appelle la Chapelle. À côté, il y a la Goutte d'Or, il y a Clignancourt et Grande Carrière. Mais tout ça, les gens ne le savent pas forcément. C'est-à-dire que le tracé du métro aérien, la ligne 2 et la ligne 6 du métro actuel, correspond à l'emplacement du mur des fermiers généraux qui avait été construit sous Louis XVI. Voilà, donc c'était juste pour dire que ces balades, c'est vraiment l'occasion rêvée pour dialoguer en direct avec les gens et voir la réalité des choses et éprouver la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on parlait de sensibilité, de choses de ressenti. Quand un groupe qui ne connaît pas la Goutte d'Or débarque à la Goutte d'Or et se trouve au milieu d'étrangers, avec des codes de rue qu'il ne connaît pas, parfois ça peut être très impressionnant. Il y a des gens, quand on traverse des groupes d'hommes maghrébins, il y a des gens qui se serrent autour de moi en me disant, est-ce que je peux rester près de vous carrément, parce que il y a des gens qui ont peur. C'est vraiment moi j'en ris presque, mais c'est humain, que c'est l'inconnu qui fait peur. Donc mon travail, c'est aussi un peu ça, de dépasser les peurs des gens et de leur donner l'occasion justement de rentrer dans ce quartier qui leur fait peur et qui est plein de fantasmes, et de montrer qu'effectivement, au-delà des boulevards sur lesquels on passe en voiture, il y a le quartier proprement dit qui est derrière et que finalement personne ne connaît. Et c'est un quartier très très riche avec énormément d'associations, une vie associative très très intéressante. Et puis quoi ? Je ne sais pas quoi vous dire maintenant. Il faut vous me poser des questions, parce que j'ai déjà épuisé mon discours que j'ai à peine préparé.
Non, mais c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il y a effectivement des questions ? Mais je voudrais que tu... je ne sais plus comment s'appelle cette structure. Enfin, structure. Écomusée ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui existe, parce qu'on a un représentant d'un écomusée aujourd'hui.
Alors, c'est un peu trompeur. L'écomusée n'est pas un écomusée. C'est-à-dire que son créateur, Jean-Marc Bombeau, est un pionnier dans la Goutte d'Or, où il a récupéré un ancien local commercial vraiment au centre de la Goutte d'Or, près du Square Léon, donc dans un espèce de carrefour. Il a récupéré une ancienne boulangerie qu'il a transformé en lieu culturel. Donc ça s'est appelé au départ Cargo 21, il y a eu plusieurs noms, ça brûlait, il a refait, enfin, donc maintenant ça s'appelle l'écomusée, tout en s'écrivant écho, enfin écomusée, donc c'est en écho avec le territoire, mais en fait c'est un lieu très polyvalent qui peut aussi bien servir de galerie d'art, de salle de conférence, de salle de concert. Il y a un sous-sol dans lequel des artistes du quartier viennent répéter. Et ça date, enfin, c'est pas un écomusée tel qu'on le connaît, mais ça s'appelle écomusée. C'est un lieu très très important de la Goutte d'Or qui, malheureusement, ça c'est le phénomène qu'on voit partout de baisse des subventions aux associations. Et c'est un lieu qui est périodiquement menacé. On fait des concerts de soutien, des choses comme ça. Et à côté, on a heureusement depuis quelques temps des établissements culturels de la ville de Paris. Donc une bibliothèque, le centre FGO Barbara Goutte d'Or, lieu de salle de répétition, de concert de danse. On a l'Institut des cultures d'islam avec deux établissements au sein de la Goutte d'Or, un ancien et un tout neuf. Donc là, c'est vraiment un lieu moi, que je trouve vraiment très intéressant. Là, très bientôt, il y a Rachid Korachi, qui est un grand artiste algérien, qui va venir parler de ce qu'il fait en développement durable, justement, dans le Sahara. Il a créé, dans une zaouïa, la confrérie Tidjania à Témassine, dans le Sahara, il a créé une sorte de bassin filtrant pour récupérer les eaux usées de la zaouïa. Et ensuite, ces eaux vont alimenter un verger. Donc c'est des lieux de proximité, mais quand même soutenus par la ville de Paris. Et il y a aussi un projet d'une association privée qui s'appelle Accord Croisé, qui travaille dans le domaine des cultures du monde, qui est en train de faire un nouveau bâtiment privé dans lequel on aura des studios de répétition, une salle de spectacle, un restaurant, un potager sur le toit pour alimenter le restaurant. Et la Goutte d'Or, c'est vraiment un quartier qui change très très vite. Il y avait une rue, la rue Mira, qui était un coupe-gorge il y a 15 ans et qui maintenant accueille des créateurs de mode branchés, on va dire. Hein, où maintenant, on a une librairie salon de thé, on a une cantine bio, on a tout ça dans la rue Mira qui, comme je vous ai dit, il y a 10 ans, était un lieu de squat et de prostitution et de drogue. Donc c'est vraiment un quartier qui change énormément. Et c'est très intéressant de le voir au quotidien, puisque moi, je vis sur place. Et c'est aussi très intéressant de le faire visiter aux visiteurs. L'autre jour, il y avait la fête des vendanges de Montmartre. Le thème, c'était les lumières cette année. Donc, j'ai fait deux balades à la Goutte d'Or, où j'avais fait un espèce de parcours fourre-tout, où on évoquait la lumière sous toutes ses formes. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir de faire ce travail maintenant qui, comme je vous dis, me laisse beaucoup de temps, qui me laisse le temps de venir ici ou d'aller à d'autres conférences et des colloques. C'est très, très, très enrichissant.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, c'est un appétit pour une mise en balade qui va se faire tout à l'heure. Donc, on peut se donner un petit temps avant de partir. C'est Pierre et Jackie qui mènent le bal, si j'ose dire. Mais je crois qu'André veut intervenir.
Oui, d'abord, je voudrais vraiment féliciter Jackie Libaud en particulier pour ce magnifique diaporama qui fait qu'on l'écoute avec un fond comme un fond symphonique d'images inconnues, quoi, finalement. Et donc, bon, on se connaît déjà et j'espère, après m'être intéressé à la rue Saint-Blaise ou en même temps, peut-être parler de la rue Miracle, il faudrait qu'on en reparle, et faire peut-être un jumelage entre rues. C'est peut-être pas idiot, sous fond de écho et de ressources visibles ou cachées de nos rues et des habitants qui y sont. Voilà.
Pourquoi pas? Alors, c'est les citoyens qui décideront. Hein. Mais pour justement, les images en question, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai un site internet, mais qui est un peu ringard. Il va falloir que je le change parce qu'il date de 2011 et je débarquais de mon Égypte et j'ai fait un peu à la va comme je te pousse avec les moyens du bord. Il y a aussi une page pro et une page perso Facebook. Donc le genre de toutes ces photos que vous voyez, c'est les photos que je mets tous les jours sur Facebook. J'en mets 3 le matin et 3 le soir. Et en général, ça correspond aux photos que j'ai fait dans la journée en me baladant. Et c'est surtout axé, bien sûr, faune, flore, street art, architecture. Et à chaque fois, bien sûr, il y a la légende, ce que l'on voit, le lieu où ça a été pris. Et j'espère que ça plaît à certaines personnes. Tous les jours, ils ont 6 photos à disposition de choses vues, soit dans Paris intramuros, soit comme je travaille aussi pour le département des Hauts-de-Seine. Donc souvent, je fais visiter l'arboretum de la Vallée au Loup à Châtenay-Malabry, qui est magnifique. Aussi le parc de Sceaux, le parc de Saint-Cloud, l'île Saint-Germain, le jardin Albert Kahn, où je vais faire bientôt un prélude à 2 voix, un peu comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc il y a un historien et un naturaliste côte à côte. Voilà. Enfin, c'est vraiment très varié, puisque effectivement, à côté de mon site internet sur lequel il y a 25 jardins proposés et une vingtaine de quartiers, il y a aussi toutes les visites que je crée à la demande. Alors c'est vraiment, je ne peux pas en faire trop, mais chaque année, en fonction donc du thème de la fête des vendanges, du thème de l'Institut des cultures d'islam, ou le festival Rhizome, enfin bref, j'arrive toujours à créer quelques visites en plus, ponctuelles, mais ça aussi c'est toujours très enrichissant, parce que par exemple pour le festival Rhizome, c'était une balade un peu fantastique dans le parc de la Poudrerie à Sevran, et moi j'étais un peu le fil rouge, mais il y avait aussi des musiciens, des plasticiens qu'on découvrait dans ce grand parc au gré de la balade, et c'était vraiment... ça a beaucoup plu, c'était un peu fantasmagorique, et c'est intéressant aussi de faire ce genre de balade qui, non pas qui sort de l'ordinaire par rapport à ce que je fais, mais c'est toujours intéressant de temps en temps de travailler avec des gens pour proposer autre chose et proposer des nouvelles expériences au public.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ça peut permettre de faire une petite pause avant d'aller marcher. Justement, parce que le départ est à quelle heure, Pierre ?
17h30.
Dans le hall ?
Oui, enfin, on va se retrouver à peu près à cet endroit-là.
Dans le hall, à la cafétéria. Juste vous rappeler que demain, on reprend à 9h, donc si vous pouvez être là à peu près à l'heure. Parce que et 8h30, le café, nous dit Céline. Donc entre 8h30 et 9h, café et croissant. Et à 9h, on reprend avec justement l'histoire de l'entrepreneuriat depuis l'Antiquité, avec un dialogue avec des chefs d'entreprise.
Merci
beaucoup. Pour la balade.
Oui, mais j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez dit. J'ai beaucoup apprécié aussi le monsieur.
Voilà, on pourrait s'y accompagner et suivre le.
Enfin, c'est aussi comme je vois les choses.
À votre disposition.
Ça sera dans l'Euro le 6.
Oui, on sera en même temps.
D'accord.